Je pense qu'il y avait dans la stratégie de Trump l'idée que, en gros, je coupe la tête de manière violente et le système s'effondre. Et c'est pas du tout ça qui s'est passé, puisque je pense qu'il a été même surpris. Je pense que c'est ce qu'on lui avait vendu. Demander à Ali Larijani, qui dirige la guerre, ou à d'autres, de négocier avec celui qui vient de tuer la référence centrale du système politique iranien, on reste sans voix. Dans les médias, c'est le passage que je trouve assez inquiétant, c'est le passage de « ça marche bien », les Américains attaquent, le système tombe et la démocratie arrive. Les médias pourraient dire, bon, on a quand même des contre-exemples dans toute la région. L'Irak, la Libye, la Syrie, l'Afghanistan, ça commence à faire beaucoup. Ça ne marche jamais et c'est encore pire qu'avant et ça peut être très dangereux. Mais cette injonction, sans prendre en compte des risques, si vous voulez, l'objectif, c'est quand même que la démocratie arrive en Iran sans qu'il y ait un coût humain trop élevé. On change les têtes, on met le roi et puis une belle démocratie va arriver. Quel est le coût humain ? Quels sont les risques de guerre civile ? Non, mais en gros, tout va bien se passer. Tous les dirigeants iraniens, ils sont nés dans la crise. Je pense que les Iraniens se préparaient à cette guerre. Ils ont mis le paquet sur la production de missiles. Ils ont beaucoup de drones, notamment aussi, qui peuvent leur permettre de faire des dégâts dans la région, c'est ce qu'on voit. Ils sont prêts à encaisser des coups, ils le savent très bien.
Thierry Coville, bonjour.
Oui, bonjour.
Je suis très heureux de vous recevoir de nouveau sur la chaîne YouTube du Média Elucide. Alors, vous êtes chercheur à l'IRIS, spécialiste de l'Iran. Vous êtes docteur en sciences économiques, mais vous effectuez depuis plus de 20 ans des recherches assez larges sur l'Iran contemporain et vous avez publié de nombreux articles et plusieurs ouvrages, dont « Iran, la révolution invisible » et plus récemment en 2022, « L'Iran, une puissance en mouvement ». Vous travaillez également sur la problématique des économies pétrolières. Donc, l'année dernière, vous êtes venu déjà nous faire une première présentation de l'Iran lors de la crise de 2025. Et vous nous avez présenté la complexité de ce pays. En tout cas, je vous incite, on vous met la vidéo en lien, à regarder si vous voulez aller plus en détail sur la connaissance de ce pays pour arriver à comprendre comment on en est arrivé, où on en est aujourd'hui. Vendredi dernier, des négociations ont eu lieu à Oman entre les États-Unis et l'Iran. Et le ministre des Affaires étrangères d'Oman a expliqué qu'un accord était assez proche, puisque l'Iran, semble-t-il, avait accepté un certain nombre des demandes, d'ailleurs historiques, des Occidentaux, comme en particulier arrêter l'enrichissement de son uranium. Et pourtant, grosse surprise, le lendemain, la fameuse attaque a eu lieu sur l'Iran. Pourquoi ?
C'est une excellente question. On ne sait toujours pas, en fait. Je pense que le gouvernement américain, manifestement, est incapable de donner une explication claire à cette attaque. Et il a avancé plusieurs explications, ce qui veut bien dire que ce n'est pas clair. Enfin, s'il y avait un narratif convaincant et clair, ils insisteraient là-dessus. Et on voit très bien que Trump lui-même, son gouvernement, il nous parle de jour, il nous dit au sud, ah ben c'est à cause de la menace nucléaire. Le lendemain, il nous parle du programme balistique. Et là on, à la limite, je pense qu'il faudrait qu'il se calme, parce que là, la dernière explication, on tombe des nues, parce que maintenant, la dernière explication donnée à la fois pour le ministre de la guerre, Peter Hegseth, et Marco Rubio, le secrétaire d'État, c'est Israël a attaqué, d'accord ? Et donc, nous, on a attaqué de manière préventive l'Iran parce qu'on savait qu'ils allaient attaquer les intérêts américains dans la région. Donc, voilà. Donc, il n'y a même plus une explication liée au programme nucléaire, au programme balistique iranien. Donc, on tombe des nues, on ne sait pas. On a l'impression que on parlait des médias avant cette interview, mais c'est que dans les médias, maintenant, il ne faut surtout pas parler des causes de la guerre. Il ne faut surtout pas parler des négociations. Il faut qu'on donne nos éléments sur la guerre, les scénarios, etc. Ben, c'est quand même ce qui s'est passé avant. C'est quand même très important. Donc, vous avez fait le bien de le rappeler, parce qu'on entend aussi un peu tout et n'importe quoi. Je pense que les Iraniens savaient très bien ce qu'ils risquaient. Ils savaient très bien que le risque de la guerre était possible. Moi, j'essaie d'écouter au maximum ce qui se passe en Iran. Je ne suis pas en Iran, mais des débats en Iran. Tout le monde le sait, même depuis la guerre de juin 2025. Il n'y a pas eu de cessez-le-feu. C'est un tweet de Trump, quand même, qui a arrêté le conflit. Donc, il n'y a pas eu de cessez-le-feu. Donc, les Iraniens, ils ne sont pas bêtes. Tout le monde savait que la guerre pouvait reprendre. D'ailleurs, ce qu'on voit, on en parlera peut-être tout à l'heure, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est qu'ils s'y sont préparés. Donc, ils savaient très bien que le risque de guerre était possible. Et ils sont allés à ces négociations Donc, il y a eu 3 séances de négociations. Et je pense qu'ils y sont allés sérieusement parce qu'ils savaient très bien que la guerre était possible puisque Trump avait déjà envoyé toute son armada près du golfe Persique. Donc, ils étaient bien au courant que le risque de guerre existait. Et ce qu'ils voulaient, je pense qu'il y a un élément très important pour eux, c'est d'avoir une levée des sanctions, enfin de négocier pour avoir une levée des sanctions américaines pour pouvoir quand même avoir une amélioration de la situation économique quand on sait que c'est quand même les difficultés économiques, pas que, hein, il y a des difficultés politiques, mais qui ont poussé les gens dans la rue en décembre et en janvier 2026. Donc, c'était un peu la stratégie iranienne. Et effectivement, d'après ce qu'on sait, parce qu'aussi, il faut être prudent, parce que les gens parlent de tout et de travers, on commence à savoir ce qui s'est dit lors de cette dernière séance de négociation, hein, parce qu'on n'y était pas. Donc, chacun donne son avis, ou le Wall Street Journal, comme si maintenant le Wall Street Journal est la référence sur ce qui se passe en Iran. Moi, j'aurais quand même un petit peu des doutes, ça fait des années que je le lis. Donc, effectivement, ce qu'on commence à comprendre, c'est effectivement du côté iranien, d'après ce que je sais, hein, peut-être les Iraniens ont proposé la suspension de l'enrichissement d'uranium pendant le mandat de Trump, et qu'ensuite, ce droit leur soit reconnu, mais qu'il soit toujours inférieur. Alors, d'après ce que j'ai compris, ils voulaient un enrichissement à 20%, parce que sous contrôle de l'Agence internationale de l'énergie atomique, tout en sachant que le taux d'enrichissement qui permet de fabriquer une bombe nucléaire, c'est 90%. Donc, à 20%, on n'était pas à 90% sous contrôle de l'AIEA, parce que effectivement, l'idée, c'est qu'il pourrait, à 3,7%, c'est le taux qui permet de fabriquer du combustible qu'on peut utiliser dans les réacteurs pour produire l'électricité, et 20%, ils ont un réacteur nucléaire livré par des Américains du temps du chat, qui permet de fabriquer des isotopes qu'ils peuvent utiliser à des fins médicales. Ils ont besoin de l'uranium à 20%. Donc, c'était la provision iranienne. D'après ce qu'on commence à comprendre, les Américains voulaient une suspension de l'enrichissement pendant 10 ans. Et ils ont, quelque part, alors il faudrait vérifier, mais ils auraient abandonné leurs deux autres demandes qui étaient un accord sur le programme balistique iranien, c'est quand même intéressant, et un accord sur la politique régionale de l'Iran. Donc, en fait, la discussion a porté simplement que sur le nucléaire iranien, ce qui est intéressant, ce qui montre qu'un accord était possible, puisqu'on sait que sur le balistique iranien et sur la politique régionale de l'Iran n'aurait pas accepté. Donc, ça voulait dire qu'il y avait un rapprochement des deux positions. Et alors, effectivement, ce qu'on entend dire maintenant, ça renforce de l'idée qu'il n'y a pas de, en anglais, de rational, hein, un narratif ou une explication logique à cette guerre, puisque maintenant, ce qu'on entend dire, c'est oui, Jared Kushner et Steve Witkoff, qui étaient présents à ces négociations, ont dit à Trump, voilà, ils refusent. Donc les Iraniens, effectivement, sont restés sur leur proposition, et les Américains ont dit, nous, on veut 10 ans de suspension. Et donc Trump a dit, ah ben si c'est comme ça, ils veulent vraiment l'arme nucléaire. Enfin, réponds-toi. Donc, si c'est comme ça, on n'arrivera jamais à rien, ou ils sont des lunatiques. Donc, ils veulent l'arme nucléaire. En fait, oui, on nous dit un narratif comme quoi Steve Witkoff et Jared Kushner étaient très déçus, étaient très énervés. Je rappelle quand même que les négociations avec Obama pour avoir l'accord nucléaire, c'est 2 ans de négociation. Donc, maintenant, on nous explique qu'en 3 ans, les Iraniens gagnent. C'est ça qui est le cliché ridicule, c'est les Iraniens, vous comprenez, ils essayent de gagner du temps. Ah ouais? Donc, il fallait quand même régler en trois séances ce que Obama a mis 2 ans à faire. Et tout le monde, d'ailleurs, les gens qui connaissent vraiment le dossier, disaient qu'il faut qu'on soit d'accord sur un cadre général. Ce n'est pas possible en 3 séances. Un cadre général, d'où cet accord. Et ensuite, on voit dans les détails. Hein, d'accord. Donc, effectivement, et Trump a dit, oui, mais si c'est comme ça, ils veulent vraiment... Ça veut dire, s'ils veulent enrichir... Dans la tête de Trump, je pense que là, on a compris... D'ailleurs, depuis, à mon avis, on en avait déjà parlé lors de la guerre des 12 jours. Est-ce que c'est sous l'influence israélienne? Ils pensent que si l'Iran veut enrichir l'uranium, c'est pour fabriquer la bombe atomique. Ce qui est quand même le débat principal, le soupçon qu'ont les Occidentaux depuis la découverte d'un programme nucléaire iranien clandestin en 2002. Mais l'Iran, on le rappelle quand même, est signataire du traité de non-prolifération. Ils considèrent qu'ils ont le droit d'enrichir l'uranium. Et si c'est sous contrôle de l'AIEA, et si c'est à 20%, il n'y a pas de raison. Enfin, je veux dire, ce n'est pas une question de leur faire confiance. Je rappelle aussi quand même que l'accord sur le nucléaire de 2015 a été respecté par l'Iran. Il y a eu 11 rapports de l'AIEA, c'était leur boulot de contrôler si l'Iran appliquait son accord. Autrement, ils n'auraient pas de levée des sanctions. Ils ont appliqué l'accord et ils ont une levée des sanctions. Donc, Trump, quand il dit « oui, ils veulent quand même enrichir l'uranium, c'est qu'ils veulent la bombe nucléaire », c'est faux. Donc, si c'est à cause de ça... Alors, parce qu'il a dit plusieurs choses. Hein. Si c'est à cause de ça qu'il a déclenché la guerre, ben, il y a quelque chose qui ne va pas, il y a quelque chose qu'il faut. Parce que, bon, attention, alors, effectivement, les Iraniens proposaient d'arrêter la suspension de l'enrichissement d'uranium pendant le mandat de Trump. Eux, c'était 10 ans. Mais bon, enfin, tous les diplomates du monde savent que quand il y a ce type de différence, on travaille dessus. Peut-être possible de trouver un compromis. Ce n'était pas non plus complètement, d'ailleurs, complètement fini. C'est d'ailleurs ce que dit le ministre des Affaires étrangères d'Oman. Il est furieux. Quand lui, je pense qu'il a vu ça, il a vu qu'il y avait possibilité d'avoir un accord. Alors, parce qu'en échange, effectivement, les Iraniens demandaient une levée des sanctions. Ils étaient même prêts, alors je ne sais pas s'ils en ont parlé lors de la dernière séance, à donner, parce qu'ils ont aussi compris comment Trump fonctionnait, des avantages économiques pour les entreprises américaines si elles voulaient investir dans les domaines de l'énergie.
Ils proposaient même de remplacer les entreprises européennes par des entreprises américaines.
Oui, c'était un peu ça.
Bon, l'Europe, c'est le truc-là qui ne sert à rien et qui sert à négocier.
Oui, voilà, il y a ça aussi. Mais je veux dire par là qu'effectivement, ces négociations avançaient bien, enfin, objectivement, avançaient bien. Il y avait la possibilité d'avoir un accord. Donc, on en revient à pourquoi Trump a lancé cette attaque. Alors moi, si vous voulez, il faut être prudent, mais une explication que je vois qui arrive assez souvent, et d'ailleurs dont les Iraniens parlaient. Moi, j'écoute beaucoup de débats, c'est pas en Iran. Il faut voir on en avait déjà parlé l'autre fois. La contradiction de la société iranienne, c'est qu'il y a quand même une image d'un régime qui est pas si. Bon, on va dire pour beaucoup de gens, c'est archaïque, c'est religieux, etc. Ce qui est pas vrai. Parce que je pense qu'il y a une stratégie derrière, même s'ils sont ils ont réprimé ce qu'ils ont fait en janvier, c'est innommable, etc. Mais il y a une pensée derrière. Par contre, la société civile iranienne a beaucoup de complexité, etc. Et j'ai vu un débat avec deux spécialistes, une femme et un homme des relations internationales. Je crois que c'est la femme qui a dit « Je pense que le danger, c'est que les Israël et les néoconservateurs autour de Trump ont survendu le fait que l'Iran était en position de faiblesse. » Donc, ils ont exagéré la faiblesse de l'Iran, ce qui n'est pas complètement faux, parce que l'Iran est en position de faiblesse relative par rapport à il y a quelques années. Mais comme l'idée que l'Iran est en position de faiblesse, donc en gros, c'est le bon moment pour attaquer. Donc, on commence à comprendre de plus en plus que, en fait, c'est ça la logique. C'est que l'Iran était en position de faiblesse, Israël voulait de toute façon attaquer, et Trump, finalement, il a suivi en se disant, bon, on va voir qu'avec son style, il s'adapte à tout, et on va voir ce que je peux en sortir.
Si vous aimez cette chaîne et notre travail, pensez à vous abonner et suivez-nous sur Elucide.media. En plus de garantir notre indépendance, en vous abonnant à notre site, vous aurez accès à tous nos contenus. Analyses graphiques, synthèses d'ouvrages, podcasts, entretiens exclusifs et articles quotidiens. On compte sur vous.
Alors, à l'issue de cette opération militaire, ont donc été tués le guide suprême iranien, Ali Khamenei, sa famille, le chef d'état-major, le ministre de la Défense, le chef du renseignement, le chef des gardiens de la Révolution et bien d'autres, même l'ancien président Ahmadinejad a été visé. Le but était de décapiter le pouvoir, ils l'ont dit, couper la tête du serpent. Maintenant, c'est le nouveau vocabulaire, en fait, des relations internationales. Et ils l'ont fait, et dans des proportions rarement vues, pas beaucoup d'exemples, autres dans le passé récent et même un peu plus lointain qui ressemblent à ça. Quel est votre regard sur cette manière de faire ?
Alors, oui, je pense qu'il y a. C'est lié à votre question précédente. Je pense qu'il y avait dans la stratégie de Trump l'idée que, en gros, je coupe la tête de manière violente et le système s'effondre. Et c'est pas du tout ça qui s'est passé, puisque je pense qu'il a été même surpris. Il faudrait voir s'il n'y a pas une réaction à ce sujet, comment ça se fait, voilà, qu'il s'écroule pas, etc. Et je pense que c'est ce qu'on lui avait vendu. Donc le système va s'effondrer. Avoir tellement dit que le système était en position, l'Iran est en position de faiblesse. Alors, si le guide on le tue, en gros, bon voilà, quand on connaît pas l'Iran, on va se dire bon bah ok, le système s'effondre, ils vont même pas se battre, etc. Alors on a vu qu'ils ont tout de suite répondu par des tirs de missiles. Je pense que c'est effectivement mal connaître l'Iran, ce qui est peut-être aussi un élément qui joue manifestement dans la façon dont Trump aborde l'Iran, c'est que c'est d'abord un système politique qui existe depuis 47 ans. Qui a sûrement beaucoup de défauts, c'est moins qu'on puisse dire, mais il y a derrière une idéologie derrière. Ils sont quand même soutenus par, on n'en sait rien, mais bon, je me trouvais le dernier chiffre de l'élection présidentielle, je vais vérifier, mais je pense qu'il y a 20% des électeurs qui ont voté au premier tour pour le candidat le plus extrémiste, donc même plus, à quelque part plus extrémiste que Khamenei, donc ils ont une base sociale.
Ça fait presque 20 millions de personnes quand même. Hein. Enfin,
oui, voilà.
Il faut se rappeler.
Pour une population de 90 millions. Donc, oui. Il y a une base sociale qui soutient le régime. Et ce que je veux dire par là, c'est quand même aussi des dirigeants qui ont connu si vous voulez, tout Ali Khamenei, tous les dirigeants iraniens, ils sont nés dans la crise. Donc la révolution déjà de 79, c'était une crise. Ensuite, il y a eu une guerre civile. Ensuite, il y a eu la guerre de 8 ans avec l'Irak. Donc les situations de crise, quelque part, bon, je caricature, mais ce n'est même pas vrai, c'est plus des situations normales qui sont nouveaux pour les dirigeants iraniens que les situations de crise. Les situations de crise, elles connaissent quasiment que ça depuis la révolution. Donc, c'est des gens qui sont habitués à ce type de situation de crise. Donc, on a bien vu, Ali Larijani, qui est quand même le nouvel homme fort en Iran, qui est secrétaire du Conseil national de sécurité, a dit très bien, ben, on va appliquer ce qui est prévu par la Constitution. Donc, ces trois personnes ont été choisies qui vont choisir un nouveau guide. Donc, on n'a pas eu vraiment le sentiment. C'est sûr, c'est un choc pour l'Iran, parce que de toute façon, avant cette guerre, ça fait un moment, le guide est à 86 ans. C'est quand même l'architecte, on va dire, vous savez, en Iran, il y a deux pouvoirs. Il y a un pouvoir du Velayat-e Fareeh, qui est un religieux, hein, d'après la constitution iranienne, qui a été taillé pour Roménie, qui représente la supériorité du religieux sur le politique. Mais il y a des institutions, entre guillemets, démocratiques, comme le président et le parlement, élus par la population. Donc, je suis le premier à reconnaître que les élections ne sont pas parfaites, puisqu'il y a un filtrage des candidats, etc. Mais ce que je veux dire par là, c'est que Khamenei, depuis qu'il est devenu guide en 1989, il a sapé sans arrêt la légitimité des institutions démocratiques, puisqu'il a développé son pouvoir en agrandissant son pouvoir, en intervenant dans tous les domaines. Même les religieux, il les a mis sous sa coupe, il les a fait des salariés. Donc, il a créé plein d'institutions très puissantes, à tel point que ce qu'on entendait beaucoup en Iran, c'est que ça ne sert plus à rien d'aller voter. Et on voit très bien que les taux de participation aux élections présidentielles et législatives reculent. Par exemple, les taux de participation aux élections présidentielles de 2024 sont le plus bas jamais intervenu depuis la Révolution. Les taux, il faudrait voir les dernières élections législatives, j'ai vu des taux de participation à Téhéran de 7% pour le deuxième tour. Donc voilà, on est face à un désintérêt. Pourquoi ? Parce que les gens disent, à quoi ça sert d'aller voter ? Puisque le pouvoir est ailleurs. Donc on va dire, ce que je veux dire par là, c'est que Khamenei est effectivement un personnage central dans le fonctionnement du système politique iranien, et à tel point. Un autre élément important, s'il n'y a pas quelqu'un de sa stature, attention, quand je dis stature, c'est pas voilà, mais de sa stature,
c'est pas admiratif quoi.
Voilà, c'est pas admiratif, c'est de facto, sa stature c'est de facto, qui ouais. était capable de le remplacer. Donc c'est tout ça pour vous dire, effectivement, il est évident. D'ailleurs, avant même sans guerre, sa disparition aurait donné une crise politique interne, puisque le groupe politique qui arrive à imposer le nouveau guide prend beaucoup de pouvoir sur les autres. Donc c'était ça. Mais on voit très bien que finalement. Ça s'est passé de manière assez calme, même si sans doute ça a été un choc en interne. Ces trois personnes ont été désignées. Ils sont chargés d'assurer la transition. Et on sait que c'est l'Assemblée des experts, qui a d'ailleurs été bombardée, le siège a été bombardé, je crois, hier, sans doute par Israël, qui sont des religieux, on va voir ce que ça va donner, qui sont chargés de désigner le nouveau guide. Donc on voit le côté simpliste, c'est-à-dire on tue le guide, le système s'effondre. Et en plus, ce qu'on commence à voir aussi, c'est que, alors, c'est intéressant, c'est peut-être la réaction est peut-être plus violente à l'extérieur de l'Iran qu'à l'intérieur de l'Iran, tout en qu'il y a quand même des supporters. Donc, vous tuez le guide, vous rajoutez un sentiment de colère et de haine chez les vrais supporters de Khamenei, qui sont dans une, qui sont, si vous voulez, leur mot d'ordre, c'est pas vraiment la démocratie. Eux, ils sont vraiment des gens, des familles très religieuses. Donc, il y a l'idée, effectivement, de vengeance, en gros. Mais on voit surtout la réaction des chiites au Pakistan, d'après ce que j'ai compris dans d'autres pays de la région, au Liban, je veux dire.
Parce que c'est un point important, parce que quand la façon dont vous l'avez présenté, on a presque l'impression que ce serait juste un responsable politique de plus, dans un truc à deux pouvoirs. Mais moi, ce qui m'a vraiment frappé dans les non-analyses qu'on a eues à peu près sur toutes les chaînes, on a l'impression que les gens n'ont pas compris qu'en plus d'être un homme d'État, c'est aussi un religieux. C'est quelqu'un qui a un poids symbolique très fort, en particulier sur le chiisme. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ça, cette partie de ce qu'il représente pour les chiites?
Ah oui, mais si vous voulez, c'est le principe de Velayat-e Fareeh, parce que si vous voulez, il y a plusieurs écoles. Alors, il y avait une école quiétiste qui disait que bon, les religieux doivent effectivement rester dans la mosquée et ne pas participer aux affaires politiques. Effectivement, Roménie, je ne sais plus dans quelles années, il écrit plusieurs ouvrages que malheureusement les intellectuels iraniens qui ont fait la révolution n'ont pas lu. Il dit il faut le Velayat-e Fareeh, donc effectivement, c'est la guidance d'un religieux sur les affaires politique du pays. Alors attention, dans l'esprit de Roménie, c'est pas qu'un religieux, c'est un religieux qui a une connaissance des affaires du monde. Donc il a effectivement un rôle central de religieux qui guide le pays. Et donc et c'est le modèle, effectivement, chez les chiites de la région, c'est une référence religieuse du chiisme politique, si vous voulez, c'est l'alliance entre la religion et la politique. Et d'ailleurs, moi j'entendais les discussions. Ma source est BBC Persan, mais je trouve qu'ils font un travail remarquable, contrairement à d'autres médias. Et donc on entendait, c'est une attaque contre le chiisme politique. On l'entend chez les chiites de la région. Pour faire simple, j'avais lu des travaux, je crois que c'était Valinasre qui est un spécialiste américain. En fait, il y a eu un réveil, il n'y a pas besoin d'être un écran d'expert là-dessus, avec la révolution iranienne, il y a un réveil. Les chiites, qui étaient plutôt des populations discriminées sur le plan économique et politique, il y a un réveil politique, si vous voulez. Et donc la République islamique d'Iran a symbolisé ça pour tous les chiites de la région. Même si, alors ce que je trouve intéressant, même s'il y a beaucoup de contestations, on vient d'en parler, du système politique iranien à l'intérieur de l'Iran, cette référence du réveil des populations chiites, qui sont quand même souvent discriminées dans le monde musulman, effectivement, a un écho qu'on ne peut pas contrôler. Parce que là, on revient à l'idée on sait très bien, mais il n'y a pas que dans le musulman. Quand on commence à instrumentaliser la religion à des fins politiques, ça peut être très dangereux. Hein, on peut avoir effectivement des mouvements de colère, et c'est ce à quoi on s'est assisté. Je crois qu'au Pakistan, je pense que l'ambassade américaine a été attaquée. Oui, il y a une colère des chiites dans la région.
Mais quel impact ça risque d'avoir sur les communautés chiites dans le monde? Parce que, on a vécu un phénomène de réalité parallèle. Moi, qui m'a beaucoup étonné ce week-end quand on regardait, puisqu'on allumait nos médias, on voyait des gens qui discutaient tranquillement, disant bon, allez, maintenant, qui on met comme nouveau président à l'Iran? On voyait des photos de manifestations de gens avec qui on est forcément en empathie, hein, toutes les femmes de la diaspora à Paris, à New York, et qui chantaient YMCA, ça y est, c'est fini. Puis on regardait les réseaux sociaux, où on voyait les images de ce qui se passait dans le monde chiite, l'Iran, mais pas que, Irak, Yémen, Pakistan, même dans le nord de l'Inde, où on voyait des dizaines de milliers de chiites qui étaient en train de protester, qui étaient en colère dans la rue. Qu'est-ce qui peut se passer sur ces communautés-là?
Alors, je distinguerai deux situations différentes, parce que moi, je connais mieux l'Iran que le reste de la région. Je pense que dans le reste de la région, on est face à ce que je vous ai dit. La révolution islamique, il ne s'agit pas de dire c'est bien ou c'est pas bien, mais a signifié le retour des chiites sur la scène politique. Voire Bahreïn aussi, il y a eu des problèmes. Hein, donc tous les pays où il y a des minorités chiites, qui étaient quand même, je le répète, défavorisées par la majorité. Et donc, effectivement, dans un certain nombre de pays où il y a des minorités chiites, il y a forcément un écho à cet assassinat, parce que c'est un assassinat. En Iran, c'est quand même différent, dans le sens où il y a eu un sondage en 2023 fait par le ministère de la Guidance iranien. Okay. Donc, c'est les institutions officielles iraniennes. Alors, ils sont très précis, mais c'est un sondage qu'ils n'ont pas diffusé, mais en gros, les résultats circulent partout. Les chiffres, il faut faire attention, mais 72,5% des Iraniens sont contre le lien entre politique et religion. Donc, on voit quand même la contradiction entre ce qui se passe en Iran et ce qui se passe dans le reste de la région. Ce qui veut aussi dire qu'il y a 30% qui sont d'accord. Donc, eux, effectivement, on a assassiné, il y a l'idée de la vengeance, il est mort en martyr, etc. Mais ça veut dire que, 70%. Donc, si, quelque part, les problèmes de légitimité dont on parlait tout à l'heure du système politique, ils sont liés quand même au fait que la plupart des Iraniens considèrent que la religion n'a rien à faire. La religion reste un élément fort sur le plan individuel, je ne vais pas dire ça, mais elle n'a rien à faire dans les affaires publiques. Et ça, on le voit monter en Iran, et ça vient des autorités mêmes. Donc, pour répondre à votre question, je pense que quelque part, son assassinat a moins d'écho en Iran, même s'il aura un écho chez ses fidèles, que dans le reste de la région. Mais sans doute, ce qui me frappe surtout, c'est, on avait déjà parlé en juin, c'est le côté simpliste, je tue le chef et puis le système s'effondre. Malheureusement, quand Trump parle de l'Iran, je trouve qu'il y a un côté très néocolonialiste. C'est une sorte de mépris. Donc, il y a des systèmes politiques qui ne sont pas comme on le souhaiterait, qui existe depuis 50 ans. Donc je tue le chef, tout le monde s'effondre et puis il hisse le drapeau blanc. Je crois qu'il a même, dit, il faudrait vérifier, il a dit, mais comment ça se fait qu'il continue à refuser de se rendre? Parce que je pense que derrière les négociations, ce n'était pas des négociations en fait. Il fallait que les Iraniens arrivent parce qu'ils avaient peur de la guerre avec le drapeau blanc. Oui, tout ce que vous dites, on accepte. Ça, c'était les négociations de Trump. Il n'y aurait pas eu la guerre. Donc, il y a un côté, il y a quand même un mépris face à des populations et systèmes politiques qui ne sont pas comme ils voudraient. En gros, on va tuer le chef et le système va s'effondrer. Non, je pense qu'il y a une méconnaissance, un certain mépris, et qui peut être coûteux, hein, parce qu'effectivement, le système ne s'effondre pas. Et il crée quand même, le côté aussi quand même... incompréhension, c'est qu'il dit, quasiment le lendemain, les Iraniens m'ont demandé de négocier. Alors qu'il vient de tuer quand même le principal personnage politique du système depuis 47 ans. Donc, il n'est pas au Venezuela. Hein. Et donc, je pense, au Venezuela, je pense, d'après ce qu'on commence à comprendre, il y a eu quand même des discussions avec l'entourage de Maduro. Là, il n'y en a pas eu en Iran. Et on sait, j'écoutais une émission de nouveau de Bisbersan ce matin, alors il y a quelqu'un qui connaît bien, qui dit en fait, c'est Trump qui a deux fois tenter de contacter les autorités iraniennes. Mais on en reparlera plus tard. Je pense s'il y a une sortie de crise, il faudra bien qu'ils négocient. Mais demander à Ali Larijani, qui dirige la guerre, ou à d'autres, de négocier avec celui qui vient de tuer la référence centrale du système politique iranien, enfin, c'est de nouveau, on reste sans voix. C'est méconnaître totalement le système politique iranien, et il y a un côté un petit peu méprisant par rapport au système.
On en parle assez peu, je dirais, comme d'habitude, mais est-ce qu'il y a eu des victimes civiles dans cette opération?
Ah oui, oui, alors, oui, vous faites bien d'en parler, oui. Parce, alors, d'après Human Rights Watch Activist, qui est une organisation des droits de l'homme, défense des droits de l'homme, basée à Washington, parce que c'est aussi ça extraordinaire. Moi, j'étais dans des médias, on me dit « Oui, mais ça, c'est les chiffres iraniens. » Après Gaza, on ose dire maintenant que « Oui, attention, il faut mettre en cause quand ils disent qu'il y a des victimes, etc. » Donc, eux, ils sont à 1800 morts. Alors, je ne sais pas s'ils distinguent les morts civiles et militaires. Oui, ça fait des morts, ça fait des morts. Il y avait un reportage de Siavosh Razi, qui fait un travail remarquable, qui est le représentant il travaille pour plusieurs médias, notamment France 24 et France Info, à Téhéran, en Iran. Bah, il disait à un moment, ils ont visé un commissariat. On en parlait tout à l'heure, parce qu'on voit le commissariat, bon, c'est quand même pas des militaires, hein, mais donc il y a l'idée que de désorganiser, on en revient, c'était désorganiser le pays. Et puis il y avait des gens qui passaient à côté, ou je sais pas, il y a un café à côté, bah, les gens, ils ont eu la tête coupée, etc. Quoi. Donc oui, oui, la guerre, c'est ça, la guerre, ça fait des morts, et c'est des civils qui n'ont rien à voir. Et je pense qu'il faut en parler, parce qu'il y a déjà eu 1000 morts, 1200 morts, dont des militaires, 200 militaires, je pense, lors de l'attaque israélienne et américaine de juin. Là, il y a quand même maintenant près de 1800 morts, oui, ça fait beaucoup de morts, oui, des gens qui...
Enfin, dont ces 200 fillettes dans l'école, dont on a très, très, très peu parlé. Un article aux États-Unis semble dire que c'était lié au fait qu'ils n'avaient pas des cartes à jour de la zone et qu'ils pensaient que c'était une caserne, bon, pas de bol, c'était une école.
Oui, c'est ça qui est un peu étonnant, c'est qu'on a l'impression qu'on n'est pas directement en guerre, normalement, nous, la France. Mais disons... je veux pas trop avoir l'air de l'expert qui critique les médias, etc. Mais bon, c'est affreux. Vous avez vu en Israël un missile qui est tombé au milieu d'Israël, il y a eu 20 morts, etc. Bon, on a eu quand même pas mal de reportages là-dessus, hein, France Info, etc. Oui, Siavosh Razi, il est en Iran. Pourquoi pas lui demander de faire un reportage sur cette école, parce que c'est aussi affreux. Et effectivement, par la petite histoire. On en parlera tout à l'heure, mais c'est devenu un sujet politique parce que le fils du Shah qui se présente comme celui qui va prendre le pouvoir en Iran, il est quand même plutôt critiqué parce qu'il a offert ses condoléances à Donald Trump à cause de la mort suite à la mort des soldats américains, ce qui est aussi affreux, mais il n'a pas offert ses condoléances aux familles des 150 fillettes qui ont été bombardées et tuées par un gouvernement américain ou israélien, je ne sais pas. Donc, je pense que les Iraniens, ça les choque. Et je pense qu'il faut faire attention aussi, parce qu'on nous vendait quand même, dans ce qui a été vendu à Donald Trump, c'est, oui, regardez les manifestations. Je pense que les manifestations de janvier et la répression de janvier ont joué beaucoup dans l'argumentaire israélien pour dire, regardez, l'Iran est en crise, c'est le moment de l'attaquer. Et c'est vrai qu'on ne sait pas combien, mais beaucoup, beaucoup. Moi, je sais, on n'a pas le chiffre, mais beaucoup d'Iraniens sont allés dans la rue et crier dans les deux slogans principaux, c'était, enfin, les trois slogans, c'était « Liberté, liberté », « Mort à Khamenei » et « Que pas la vie revienne ». Donc, effectivement. Et ce que je veux dire, et c'est vrai qu'on a eu des reportages, et on ne s'est pas privé de nous les montrer, mais pourquoi pas, on peut le comprendre, avec cette colère, on parle quand même de 20 000, de plusieurs estimations, 20 000 morts suite à la répression, et des Iraniens qui disent « Oui, que la seule solution, c'est que les Américains attaquent ». On l'entendait. Moi, j'ai été à des débats ici dans les médias. On voit quand même des représentants de la diaspora iranienne qui demandaient, qui reprochaient aux Européens de rien faire et qui demandaient l'attaque américaine. Je ne suis pas sûr. Il faut faire attention, mais vous savez, les populations réagissent vite. Je ne suis pas sûr que ces bombardements, même, je pense que ce n'est pas sciemment, mais ça fait des victimes, notamment ces fillettes qui ont été tuées, c'est les morts civiles. Je ne suis pas sûr qu'un certain nombre d'Iraniens qui demandaient l'attaque américaine soit pas en train de changer d'avis, surtout quand on voit les plans, je ne sais pas si on en reparlera, c'est qu'on commence à se rendre compte qu'il y a peut-être divergence de plans entre les États-Unis et Israël. Impossible plan d'Israël, c'est d'affaiblir durablement l'Iran. Tout ça pour vous dire que je ne suis pas sûr que ce soit très bon, notamment cette guerre, pour, je veux dire, ça ne conduit pas un certain nombre d'Iraniens de réfléchir. Oui, ils ont beaucoup de colère contre le régime, mais est-ce que la guerre, c'est vraiment la solution pour favoriser une transition politique en Iran ?
Bien sûr, surtout quand on parle de déstabilisation, choses comme ça, enfin, on parle d'une guerre civile, en fait, c'est ce qu'ils essayent de déclencher a priori. En tout cas, c'est un des plans. Trump, hier, l'a clairement dit que c'était une de ses options. Hein.
D'ailleurs, c'est pour ça qu'il revient, c'est qu'il n'a pas de plan. Par contre, du côté israélien, c'est assez clair. Oui, du côté israélien, je pense que ce serait sans doute lui qui a conseillé à Trump de téléphoner aux leaders kurdes en Irak pour... Alors, ce n'est pas ce qui va se passer, mais ça paraît plus clair du côté israélien, c'est d'obtenir une... Il y a eu des votes, je crois, à la Knesset qui disaient que du côté azéri, ça devait être indépendant par rapport au reste de l'Iran. Donc l'idée d'affaiblir l'Iran par une séparation ethnique, vous savez, l'Iran est une mosaïque ethnique, contrairement aux clichés qu'on peut avoir. Et donc ça me paraît assez clair du côté israélien. Alors que du côté américain, Trump, à mon avis, il est plus dans le... Il navigue à vue, quoi. Il cherche aussi... Si on pouvait lui présenter, d'où son coup de fil, ses coups de fil aux dirigeants iraniens, une issue rapide au conflit où ils permettent de dire « Regardez, j'ai gagné », etc., lui, il ne serait pas contre. Mais du côté israélien, ça me semble un peu plus clair. Oui. Je pense que l'Iran se prépare à la guerre depuis juin. On est surpris de leur missile, le problème balistique, mais ils ont compris que c'est leur seule arme de défense, donc ils ont mis le paquet sur la production de missiles depuis juin. Ils sont, d'après ce qu'on a compris, Ali Larijani a doublé les postes des chefs des Pasdaran pour savoir s'il y en a un qui est... S'ils sont assassinés, bon, ils sont tout de suite remplacés. Donc ils se préparaient à cette guerre. Donc oui, on a sans doute survendu à Trump la facilité. Je pense qu'il ne s'attendait pas à ce que l'Iran résiste comme ça. Il y a un très bon article de The Economist, il faudrait que je retrouve les références, suite à justement aux manifestations de janvier 2026 que j'ai lu, que je trouvais remarquable, qui disait, lui, qui a l'air de bien connaître les terrains, il disait que le risque de guerre civile est réel, ce qui est une réalité en Iran. Vous avez ces millions d'Iraniens qui, quoi que le dise le guide, ils acceptent. Quelque part, ils sont orphelins et qui sont prêts à défendre le système politique. Du système politique, il reste en place. Et ils ne donnent aucun signe, contrairement à ce qu'on nous racontait, parce que le chancelier allemand, quand même, ça fait deux fois qu'il dit que le système... Il faudrait peut-être que ses conseillers lui parlent, parce que ça fait quand même plusieurs fois qu'il dit que le système iranien va tomber dans quelques jours. Donc, je ne sais pas il y a combien de temps il a dit ça, mais voilà, le système, il ne donne pas de signe de tomber. Il est en place. Et je parlais du risque de guerre civile. Oui, il est réel, parce qu'il y a tous ces millions d'Iraniens qui soutiennent le régime quoi qu'il arrive, pour des raisons idéologiques, des raisons économiques, tout ce qu'on veut, mais ils le soutiennent. Vous avez effectivement une autre partie de la population iranienne qui a peut-être augmenté, avant on disait une minorité, peut-être avec la répression de janvier, elle a augmenté. C'est-à-dire les gens qui détestent, qui haïssent le système politique actuel, qui étaient contents que les Américains et les Israéliens attaquent, qui demandaient cette attaque. Et puis ce qu'en Iran on appelle la zone grise, vous avez des gens qui sont au milieu. Mais vous avez une bipolarisation de la société iranienne. Alors, avec les plans qu'on entend, parce que dans ce fameux discours de Trump où il annonce la guerre, c'est quand même assez lunaire aussi. C'est-à-dire, oui, il dit aux Iraniens, on en revient au côté méprisant, je pense, quasiment colonial de ses discours. Oui. Donc, on va bombarder l'Iran. Alors, je ne sais pas s'il a dit combien de temps à l'époque, mais bon, vous ne sortez pas, parce que comme s'ils étaient cons, les Iraniens. Sortez pas. Et puis, quand vous pourrez sortir, on vous préviendra. Et puis là, vous prenez. Puis là, c'est votre boulot, quand même. Prenez votre destin en main. En gros, on a fait le boulot, c'est à votre. Ah oui, donc, que fait une population désarmée face à des gens qui ont peut-être toujours des armes, on ne sait pas s'il restera des Pasdaran ou des services de sécurité, et face à des millions d'Iraniens qui sont prêts à se battre pour la maintien du système politique.
Enfin, sachant qu'il y a la loi martiale et qu'ils ont dit que toute manifestation sera évidemment.
Oui, non, mais je veux dire,
comme dans tout pays en guerre. En
fait. On revient dans les médias. C'est le passage que je trouve assez inquiétant. C'est le passage de voilà. Donc, ça marche bien. Les Américains attaquent, le système tombe et la démocratie arrive. Donc, si vous voulez, les médias pourraient dire bon, on a quand même des contre-exemples dans toute la région. Peut-être le répéter parce que bon, comme si bon, l'histoire se répète pas. Mais enfin, l'Irak, la Libye, la Syrie, l'Afghanistan, ça commence à faire beaucoup. Ça ne marche jamais et c'est encore pire qu'avant et ça peut être très dangereux. Hein, parce que donc, ne parlons pas du risque de terrorisme, de déstabilisation des pays, etc. Donc ça ne marche pas.
Il faut en parler un peu quand même parce que ça nous concerne.
Oui, oui,
quand même
ça,
bien,
non, mais,
c'est pas un détail.
Non, mais je veux dire, non,
ça,
mais dans
ça
le.
Ça a l'air d'intéresser personne.
Non, mais ça, oui, c'est ça. Donc, comme si c'était facile, c'était pas dangereux, etc. Déstabiliser un pays aussi grand que l'Iran, trois fois la France, centrale dans la région, c'est voilà, tout va bien se passer, une démocratie avec tous les dangers. Et surtout en Iran. Enfin, je veux dire, il y a depuis des centaines d'années, alors je ne dis pas des milliers d'années, parce que moi, je n'ai pas spécialisé jusqu'à là, mais depuis des centaines d'années, il n'y a pas une intervention étrangère qui ait été des résultats positifs pour le pays. Donc, je pense qu'on... Alors, l'expression que j'entends en Iran, c'est on a vendu un rêve à Trump. En gros, t'attaques, le système tombe, et puis les Pahlavi arrivent, et puis des millions d'Iraniens sont dans la rue à dire, voilà, il prend le pouvoir et il organise... Alors, c'est un peu ambigu. On ne sait pas si lui veut reprendre une monarchie constitutionnelle. Il dit qu'il a favorisé une transition vers un système démocratique. Mais effectivement, en tout cas, j'aimerais bien que... Il ne s'agit pas de faire peur aux gens, mais c'est de donner des éléments aux gens, au public, pour leur dire, oui, le risque de guerre civile, il existe. On l'a vu dans d'autres régions. Il faut pouvoir arrêter de vendre du rêve aux gens en disant que la guerre va conduire à la démocratie. Alors, vous parliez effectivement, c'est arrivé à la Deuxième Guerre mondiale, mais depuis, on n'a quand même pas beaucoup d'exemples où c'est bien marché, et notamment au Moyen-Orient. Donc, et puisque ce qui me sidère un petit peu, j'aimerais bien que les médias mettent l'accent dessus, c'est... Et alors, quand on suit l'Iran, quand on travaille sur l'Iran, c'est vrai que la question... je suis un peu gêné parce que... La question de la démocratie en Iran, c'est une vieille histoire en Iran et c'est un combat de la société iranienne. Enfin, l'Iran est quand même le premier pays dans la région à se doter d'une constitution avec la révolution constitutionnelle de 1906. Donc là, il y avait une guerre civile à l'époque et les Russes soutenaient plutôt le Shah à l'époque. Donc les Russes n'ont pas toujours été, les Iraniens n'ont pas forcément des bons souvenirs des Russes. Ils bombardent le Parlement et... Ils bombardent le Parlement iranien à l'époque quand même. Donc quand on nous dit d'une alliance ad vitam aeternam entre les Iraniens et les Russes, il y a quand même des références historiques qui disent le contraire. Non, tout ça pour dire le combat pour la démocratie en Iran. 1953, un ministre, alors c'était une monarchie constitutionnelle, mais qui avait été désigné par le Parlement, très populaire, Mossadegh, qui est quand même renversé par un coup d'État des Anglais et... des soldats de la CIA. Donc, le combat pour la démocratie, et beaucoup d'Iraniens sont allés dans la rue pour faire la révolution en 79, ils voulaient la démocratie. L'Ayatollah Khomeini, quand il était en France, quand on disait « mais vous allez instaurer la démocratie en Iran », il disait « oui, je suis pour la démocratie, respect des droits des femmes, etc. » à la mode islamique. Donc, les gens croyaient à la démocratie, notamment les gens qui étaient derrière lui, ils ne se rendaient pas compte qu'il avait en tête le concept de velléité farid dont on a parlé tout à l'heure. Tout ça, le combat pour la démocratie, il est important en Iran et il ne faut pas le perdre de vue. D'un autre côté, je suis toujours un petit peu sceptique, cette injonction, tout d'un coup, il y a un pays, et c'est là que je me dis, il y a un loup, il doit y avoir d'autres raisons. Oui, c'est la démocratie, comme quoi la démocratie, il faut que ça arrive en Iran, mais enfin, en Arabie Saoudite, c'est une démocratie? Les médias pourraient dire, voilà, au Qatar, c'est une démocratie, aux Émirats, c'est une démocratie. Donc, c'est quand même très gênant, tout d'un coup, cette injonction. Oui, parce qu'en gros, si on n'est pas pour la guerre en Iran, on n'est pas du bon côté de l'histoire, on n'est pas pour la démocratie en Iran. Évidemment qu'on est pour...
Oui, bah, je vois pas trop qui est contre.
Qui est contre la démocratie en Iran, tout le monde est d'accord. Mais cette injonction, sans prendre en compte des risques, si vous voulez, l'objectif, c'est quand même que la démocratie arrive en Iran sans qu'il y ait un coût humain trop élevé. On dirait que non, c'est quelque part, bon, allez, nous faites pas perdre de temps, quoi, je veux dire. Qui parle des pertes humaines en Iran actuellement, hein? Qui parle des risques de guerre civile? Donc, ce serait bien, je dis pas que... pourquoi pas, mais ce serait bien de parler des risques et si vous voulez, c'est quelque part, il y a un mépris des populations locales. C'est comme si, voilà, en fait, on est au mécano, hein, on change les têtes, on met le roi, et puis une belle démocratie va arriver. Quel est le coût humain Quels sont les risques de guerre civile? Non, mais tout va bien se passer.
Oui, mais ça, c'est la vision des néoconservateurs qui devront toujours, s'il y a 20 millions de morts en Iran, c'est pas grave, il restera de la démocratie pour 70 millions au final. Enfin, c'est ce qu'il y a eu en Syrie, c'est ce qu'il y a eu dans d'autres pays. On voit que le coût humain n'est jamais pris en considération. Et vous parlez de risque de guerre civile, on voit qu'il y a des plans pour déclencher une guerre civile.
Oui, alors, je pense que du côté de Trump, on en a parlé. Je pense que le problème avec Trump, c'est qu'il écoute beaucoup de personnes et qu'il n'a pas. C'est pas quelqu'un qui a. C'est un peu la façon dont il fonctionne. C'est quand même, j'ai plus l'expression, assez plastique. Donc lui, il prend des décisions, on a vu, on ne sait pas trop pourquoi, mais il se garde plein d'options. Mais c'est quand même son objectif, c'est de s'en sortir sans trop de coups. Donc je ne suis pas certain que si on lui parle de guerre civile en Iran, il y a des gens qui vont dire « Oh là là, ça va être compliqué, même pour la région, même pour les autres pays du coin. » C'est pour ça que tous les pays étaient contre la guerre. Ils voyaient un risque de vide en Iran et de guerre civile. La Turquie, l'Arabie saoudite étaient contre cette guerre. Ils voyaient le risque de guerre civile. Et c'est vrai que dans le discours de certains, j'écoutais le discours sur l'IMIC persan, notamment des opposants iraniens, c'est un peu inquiétant. On retrouve un peu, on entend des phrases du genre « Oui, voilà, la seule solution, c'est la guerre ». Pour arriver au changement de pouvoir en Iran. Et donc, j'espère que ce n'est pas vrai, j'espère que je me trompe, mais il y a effectivement comme si on sous-estime et c'est quelque part des coûts, des pertes normales. Et c'est un peu ce qu'a dit, fils du chat, il est plutôt très poli, très occidentalisé, mais enfin, quand des gens lui ont dit, voilà, tous ces gens qui sont venus manifester pour vous en janvier, ils ont été tués, quoi. Beaucoup ont été tués. Et il a répondu, il faudrait vérifier, mais je crois qu'il a répondu, c'est la guerre et c'est les pertes, en gros, les pertes humaines. Ah, d'accord, ok. Donc, finalement, j'espère qu'il y a quand même des hommes politiques qui réfléchissent à ça. Non, on n'est pas au mécano, c'est des populations qui se battent depuis longtemps pour la démocratie et les pertes humaines, notamment pour les Occidentaux, la manière dont on mène les combats, c'est important. Donc, je pense qu'il faut quand même faire attention à ce coût humain et ce risque de guerre civile.
On a un peu de mal à comprendre quelle est la situation, la vision de la société iranienne. Vous avez donné quelques éléments tout à l'heure, mais quelle est l'opinion de la société par rapport à ce gouvernement? En tout cas, comment ça se répartit, puisqu'on a l'air de nous présenter une situation où il y aurait 99% de la population qui serait opprimée et qui attendrait juste un petit truc pour prendre le pouvoir. Vous nous dites que c'est quand même plus... plus complexe que ça. On a vu passer aussi les chiffres d'un sondage qui revient souvent. Donc 80% des gens seraient contre le régime actuel. C'est vrai, c'est ça à peu près. Ils peuvent compter quoi sur un quart de la population? C'est plus, c'est moins? Et puis quelle vision ils ont de ces frappes aussi? Voilà. C'est quoi la complexité de ce pays?
C'est une très bonne question. Parce que j'y pensais justement à toutes ces réponses simplistes à des situations complexes que je regardais. Une chaîne YouTube comme vous là qui existe en Iran, je trouve qu'ils sont très courageux, ils font un travail remarquable, il s'appelle Kanal Azad, ça veut dire liberté. Et il y avait un jeune 30-40 ans iranien qui a dit d'abord, ça m'a marqué, il a dit l'Iran est dans une situation complexe et tous ceux qui arrivent avec des solutions binaires, en gros 0 ou 1, se trompent. Donc il serait bien que les médias, si vous voulez, je ne sais pas, il faut leur écrire ça sur leur bureau, etc. Oui, c'est une situation complexe. On entendait, après le mouvement Femmes, Vie, Liberté en 2022, que la population iranienne était divisée en plusieurs parties. Il y avait une minorité qui soutenait le régime. Alors, quand on dit minorité, c'est une minorité de 90 millions d'habitants. Donc, on a parlé, il y a quand même 20% des gens qui ont voté pour le candidat le plus radical en 2024. Une minorité qui haït le régime, et c'est vrai, donc on parle de bipolarisation de la société, qui haït le régime. Je pense qu'avec la répression de janvier, naturellement, cette minorité a augmenté, parce que la répression a touché quand même beaucoup de monde. Et au milieu, la classe moyenne iranienne, éduquée, très éduquée, et qui veut la démocratie et l'état de droit et des relations normales avec le reste du monde, mais qui ne veut pas que ça se fasse avec la violence. Parce que les Iraniens, ils voient quand même la région. Ils ont vu la Syrie, etc., l'Irak, etc. Donc, ils voudraient que... Évidemment, ils veulent la démocratie, mais ils veulent que ça se fasse sans violence. Et donc, ce qu'on peut penser, c'est qu'avec la répression... De janvier, ceux qui haïssent le régime, le pourcentage a augmenté. D'un autre côté, il faut attention, 80% des gens sont contre le régime. Oui, mais ça veut dire quoi? On en parlait tout à l'heure. Les chiffres officiels même de l'Iran même disent que plus de 70% des Iraniens sont contre le lien entre religion et politique, donc ils sont contre le régime. Donc effectivement, ça c'est un fait. Mais est-ce que ça veut dire, hein, on en revient toujours, est-ce que ça valide le narratif qu'on nous vend qu'en gros, il va y avoir une guerre, le système va s'effondrer. Déjà, le problème, c'est qu'avant d'arriver à ça, il faut que le système s'effondre. Et on voit que pour l'instant, ce n'est pas le cas. Donc ça va coûter beaucoup de vie, hein, beaucoup de vie humaine, et ce n'est même pas sûr que le système s'effondre. Et ensuite, effectivement, on n'est pas du tout sûr qu'après tant de pertes, voilà, qu'est-ce qui va rester de la société iranienne, et est-ce qu'ils vont aller acclamer Reza Pahlavi qui arriverait en avion pour dire très bien, je vais vous apporter la démocratie. Donc, ce qu'on sait, moi j'ai vu un débat avec deux sondeurs iraniens, donc c'était leur métier, ils faisaient ça, ils disaient, ce qui est aussi intéressant, effectivement, il y a un mécontentement en Iran, à tel point que quand ils posent des questions de sondage en Iran, les plus grandes questions, c'est est-ce que vous voulez le maintien de la situation actuelle, le changement ou le renversement du système. Donc, c'est des questions qui sont posées aux gens en Iran. Donc, ils ont intégré le fait qu'il y a combien de pourcentage, on va dire, je ne sais pas moi, une minorité des gens qui veulent le renversement du système. Par contre, il y a des gens qui veulent le changement. D'autre part, ces sondeurs disaient quelque chose de très intéressant. Alors, à l'époque, hein, c'était quelques mois avant ces événements récents, notamment les manifestations de décembre, janvier 2026, ils disaient qu'il n'y a pas un groupe politique qui s'impose en Iran. Donc, c'est vrai que le sentiment qu'on a, c'est que l'Iran est un pays très divers. Il y a une gauche en Iran, hein, il y a des républicains, il y a ceux qui veulent la monarchie constitutionnelle, il y a des supporters du Shah qu'on a vu dans la rue en janvier, il y a aussi des composantes ethniques qui font que effectivement le vote peut aussi être lié à des conditions éthiques. Puis les ethnies elles-mêmes ont quand même des revendications du côté des Kurdes, du côté des Baloutches, etc. Donc l'Iran est une mosaïque, un pays très complexe, donc c'est faux effectivement. Si vous voulez, c'est très simplificateur de dire oui, 80% des gens sont contre le système actuel. Bon, ça, en gros, c'est quelque part, ça justifie la guerre. Donc, c'est un pays très complexe. Et alors, un autre élément sur lequel je n'ai pas la réponse, mais auquel il faut faire attention, c'est effectivement, le Shah a sans doute des partisans, c'est vrai, mais il y a pas, on voit très bien, ce n'est pas la majorité en Iran. Enfin, même si on dit que s'il y avait une élection, si vous voulez, je pense qu'il faut faire attention parce que la photo authentée d'une population, eh bien, ça peut changer. Je pense que ce qui s'est passé en janvier, les gens qui sortent dans la rue, vous voyez des jeunes de 17 ans qui disent que le Shah revienne. Ils n'ont pas connu le temps du Shah. Je pense qu'il y a une telle colère, cette partie de la population, face au système politique actuel, qu'il n'y a pas de leader politique, c'est aussi un problème, il n'y a pas un leader politique identifié en Iran. Alors, il y a des leaders politiques d'opposition, mais cette partie de la population, ils veulent un leader en dehors du système. Par exemple, Mousavi, vous savez, qui était le leader du mouvement vert en 2009, qui est en président surveillé, pour eux, non. Ils n'ont même pas scandé son nom, il est lié au système. Donc, tous ceux qui sont liés au système, on n'en veut plus. Et gros, le seul leader identifié contre le système, c'est Reza Pahlavi. D'accord ? Mais, ils ne représentent pas la majorité en Iran, mais même s'ils ont tout à fait le droit de demander le retour du Shah. Mais je veux dire, le Shah, c'est vrai, la royauté en Iran, elle a fait ses preuves. Ils ont eu 50 ans de règne, quelque part. Il y avait un certain développement économique, un véritable développement économique dans les années 60-70, même si c'était une dictature, hein, avec une police secrète, la SAVAK, etc. Donc, pourquoi pas ? Mais ce que je veux dire par là, oui, c'est qu'on vend du rêve aux gens, notamment aux populations occidentales, en disant voilà, la majorité des Iraniens veulent le retour du Shah. Une partie veulent le retour du Shah, mais on a vu, ça peut être une stratégie tactique. C'est-à-dire, on cherche un opposant pour nous mener à la démocratie. Donc, c'est pas forcément, et j'ai entendu les Iraniens le dire, attention, qu'ils ne se trompent pas. Hein. Si on le soutient, c'est qu'on veut le changement. Mais on ne veut pas le retour à la monarchie du passé. Donc, vous voyez, c'est déjà plus complexe que ça. Et d'autre part, on peut se poser la question avec cette guerre, parce que la guerre, c'est la guerre, avec des pertes civiles, déjà 2000 morts en Iran. Est-ce que face à Reza Pahlavi, on l'a vu, qui quand même a demandé cette guerre, c'est quand même un risque politique, il a demandé cette guerre, il a demandé de l'aide de Trump, donc il a ce qu'il voulait. Bon, est-ce que ce soutien va continuer ? C'est aussi une question qu'on peut se poser. Donc effectivement, ce qui serait quand même bon, c'est qu'on fasse ressortir cette complexité et qu'on nous montre que le passage, hein, guerre, on fait la guerre, le régime tombe et la démocratie arrive, c'est compliqué. Et en plus, ne parlons pas de toute la complexité de construire une démocratie. Enfin, je veux dire, on regarderait la Tunisie. Hein. L'Iran, c'est ça qui m'énerve, c'est à la fois, il y a un discours néocolonial, je pense, du côté des Américains, mais s'il y a un pays au Moyen-Orient, enfin, je ne connais pas assez les autres, mais en tout cas l'Iran, je suis frappé de la complexité du niveau de réflexion, etc. Donc, les Iraniens, ils sont prêts pour la démocratie, c'est ça qu'ils feraient. D'un autre côté, on en revient toujours à la même question, c'est quoi la meilleure moyen d'y arriver? C'est pour ça que, moi je suis économiste, j'ai peut-être une déformation professionnelle, moi je pensais qu'une des voies, c'était l'accord 2015 qui permettait quand même à l'Iran d'avoir une levée des sanctions et d'avoir un certain développement économique, ce qui permettait un petit peu le modèle chinois avec toutes les réserves que ça a, d'arriver à la démocratie sans trop de casse, avec un pouvoir qui ne veut pas bouger. Mais de nouveau, c'est quand même étonnant, on pourrait le dire, parce que notre président, enfin, il a fait une déclaration, je crois que c'est hier soir, où il dit « cette guerre ne respecte pas le droit international ». Quand même, il l'a dit, parce que ça commençait à dater un petit peu, les autres l'avaient dit, mais il dit « c'est de la faute de l'Iran ». Bon, je me permets là d'introduire un petit bémol, parce que moi, je dirais c'est aussi la faute, et beaucoup plus la faute de Trump, parce que Trump, il y a quand même une logique, en économie, c'est un cheminement assez clair, une dynamique assez claire qui s'est créée. Il ne s'agit pas de nier la responsabilité, notamment de l'ayatollah Khamenei, dans le fait qu'il n'a pas voulu ouvrir le système politique, etc. Mais en sortant de l'accord en mai 2018, en réimposant cette politique de pression maximale, il a appliqué une politique qui consiste à créer la misère économique en Iran pour que les gens sortent dans la rue. C'est, enfin, je dis, les gens qui m'écoutent, c'est ce que Pompeo a dit en 2019 et c'est ce que, comment il s'apprête, je ne sais plus, le nouveau secrétaire au Trésor, Bressen, il a dit à Davos il y a quelques mois, regardez, ça marche notre politique en Iran. Donc si vous voulez, quelque part, cette crise, elle a été manufacturée, produite en Iran, produite par les Américains, par ces sanctions américaines, et aussi ça a conduit à un durcissement du pouvoir iranien, parce qu'il s'est vu attaquer, donc effectivement, il est retourné à ses vieux démons, Khamenei a mis par exemple Raisi en poste et n'a voulu tout contrôler le système politique avec l'absence d'ouverture démocratique. Donc, on peut dire que c'est de la faute de l'Iran. On a parlé en plus de toutes les ambiguïtés sur le problème nucléaire iranien. Quand même, je rappelle quand même, j'ai vu une déclaration de directeur de l'AIEA qui répète quand même qu'il n'y a aucun élément qui montre que l'Iran ferait qu'un bombe atomique. Il faudrait peut-être le dire à notre président qui nous parle. Oui, mais l'Iran non. Ce n'est pas ce que dit l'AIEA. Donc, et Trump, quelque part, c'est les anticipations autoréalisatrices. Donc, avec cette sortie de l'accord en mai 2018, il a conduit l'Iran sur un chemin et je pense qu'il a une très large responsabilité dans la guerre actuelle. Donc, l'Iran a une part de responsabilité, mais regardons que c'est plus complexe que ça et ça devrait nous faire de réfléchir, parce que nous, l'Europe est complètement absente de cette crise. Je pense quand même que si les sanctions américaines ont fait tellement de mal à l'Iran, c'est à cause de leur caractère extraterritorial et le fait que nous, très docilement, parce que, je veux dire, bon, alors, c'est toujours facile, le chercheur, il est toujours là, il ne se rend pas compte des contraintes politiques, etc. Mais bon, est-ce qu'on n'aurait peut-être pas plus... Je répète, est-ce que finalement, d'un côté, il y avait... quand Trump est sorti de l'accord, il a mis en place ces sanctions extraterritoriales. Bon, les Européens avaient un choix clair. C'est où ils acceptaient ces sanctions, où ils se battaient un petit peu. Alors, le coup, c'était effectivement, Trump a menacé, vous n'aurez plus accès au marché américain. C'était une perte, enfin, je veux dire, c'est pour ça que Total, ils n'ont pas réfléchi, ils ont quitté l'Iran, etc. Ils ont arrêté d'acheter du pétrole à l'Iran. Mais c'est vrai que la menace était claire, mais du côté du gain, il y avait quand même le maintien de l'Iran dans l'accord sur le nucléaire de 2015, c'est quand même important, parce que dire qu'on craint un Iran nucléaire et ne pas être capable de défendre un accord qui garantissait que l'Iran... le problème nucléaire et l'Iran reste civil, je vois une petite contradiction quand même. Et surtout, c'est ne pas voir, si vous voulez, qu'on engageait l'Iran dans une voie qui pouvait être très dangereuse, parce qu'on savait très bien que l'Iran allait réagir et sortir de l'accord. Et maintenant, on dit, regardez, ils ont pas respecté, ils ne respectent pas le traité de non-prolifération, ça veut bien dire qu'ils veulent la bombe nucléaire. C'est quand même oublier la responsabilité des Européens. Donc, ce que je veux dire par là, dans la décision qu'on a prise, un petit peu de vision stratégique nous aurait dit que finalement, OK, ça, on peut avoir un coût économique, mais est-ce que la stabilité régionale, la lutte contre la prolifération nucléaire, c'est pas ça qui est en jeu? Est-ce que ça aurait peut-être pas mérité? Attention, moi, le chercheur, il est là tranquille, il voit pas. Je pense que Trump, dans son premier mandat, il avait déjà menacé les Européens de sanctions s'ils obéissaient pas aux Américains. Donc on voit bien comment il fonctionne. Mais bon, est-ce que ça méritait pas qu'on se batte un peu plus pour cet accord? Et je pense que l'inaction européenne. Les Européens, les économistes, ils viennent toujours avoir des pourcentages dans la responsabilité, mais il y a une part de responsabilité, on va dire, dans la crise actuelle.
Ce qui est un peu fou, c'est qu'il n'y a pas très longtemps encore, avant de mener des opérations de cette ampleur, les États-Unis déployaient d'instruments assez classiques de propagande pour nous vendre la guerre. Alors, ok, c'était pas très convaincant, surtout au fil du temps quand même, quand ça s'est multiplié. Mais il y avait au moins la volonté de faire illusion sur pourquoi on y allait, sur ce qu'il allait avoir le coup d'après. Or, ce coup-ci, on voit que l'attaque a été vraiment soudaine et les justifications avancées ont été extrêmement légères. Est-ce que vous pensez que ça traduit une rupture dans l'ordre international ?
Ben oui, enfin je veux dire là, enfin déjà à force de dire, enfin que nous, c'est pour ça que je suis content au moins que Trump, enfin Macron répète que cette guerre ne respecte pas le droit international, même si je suis pas du tout d'accord avec le reste de sa déclaration. Donc c'était quand même assez inquiétant qu'en Europe il y ait que la Norvège, je crois, la Finlande, l'Espagne, qui tout de suite disent cette attaque ne respecte pas le droit international. Donc c'est quand même très très inquiétant. Et alors là, ce qui est effectivement, je suis tout à fait d'accord avec votre question dans un certain sens, c'est que il y a tellement un privilège donné à la force que les pays en question, Israël et États-Unis, ne se donnent même pas la peine de donner un prétexte, puisque le prétexte finalement, c'est l'Iran, l'adversaire est en position de faiblesse, donc on l'attaque pour obtenir tout ce qu'on veut de lui. Donc oui, c'est tous ceux qui très gaiement nous disent que cette guerre c'est génial et qu'il faut y aller. Alors demain quand ça va être un autre pays, donc c'est très très inquiétant. Le droit international en fait c'est quand ça nous arrange quoi, c'est quand ça permet de défendre nos intérêts. Donc effectivement le droit international c'est pour tout le monde. Alors si maintenant il n'y a même plus besoin d'arguments parce qu'on est les plus forts, on attaque. Oui, alors on revient toujours, c'est une vision extrêmement court-termiste et de quel est le monde que l'on prépare, tout à fait.
On a vu aussi Israël sortir le narratif d'une légitime défense face à l'Iran. Tous nos médias ont assez rapidement repris, d'ailleurs, c'était frappant hein, de voir ça, le mot « frappe préventive », sans qualifier ça autrement, en tout cas dans les premières heures, premiers jours. Les politiciens occidentaux qui appelaient l'Iran à mettre fin à son programme nucléaire supposé. Est-ce qu'il y a des éléments valides dans ce narratif ? Et surtout, qu'est-ce qu'Israël espère finalement l'utiliser encore une fois ?
Mais l'examen des faits quand même fait ressortir la légèreté des arguments israéliens, parce que c'est quand même intéressant. C'est ce qu'ils ont dit. Hein. Moi, je sais pas ce que... Donc, en juin, leur attaque, c'est à cause de la menace nucléaire iranienne. D'accord ? Donc, effectivement, ils attaquent en juin une frappe en gros préventive déjà à cause du risque que l'Iran acquiert la bombe atomique. Alors que l'agence internationale de l'énergie atomique vient de rappeler qu'ils n'ont aucune preuve, aucun document que l'Iran ait commencé à fabriquer la bombe atomique. Et je pense qu'il n'y a aucun service secret dans le monde qui a ces documents. Et d'ailleurs, la responsable des services secrets de Trump l'avait dit. Et Trump lui avait dit, mais elle pense n'importe quoi. Donc, effectivement, cet argument n'est pas valable. Et alors, il est encore moins valable maintenant, puisque l'Iran a arrêté d'enrichir l'uranium depuis la guerre de juin. Donc, il faudrait qu'on m'explique comment ils peuvent être un danger sur le fabriquer une bombe atomique. Alors, s'ils ont arrêté d'enrichir l'uranium. Alors, il y a effectivement cette histoire des 400 kilos d'uranium enrichi à 60% qui existent toujours là en Iran. Et je crois que je ne sais plus qui. Il y a un dirigeant américain qui a dit oui, mais c'est pour ça qu'on a attaqué aussi, parce qu'ils cherchent quand même une raison maintenant, on va essayer de convaincre, parce que là, ils n'en ont pas. Il dit parce que ça donne la possibilité à l'Iran de fabriquer des bombes atomiques, en oubliant quand même que ce que disent tous les experts dont je ne suis pas, c'est très très compliqué. C'est potentiellement, ça donne à l'Iran la possibilité de fabriquer plusieurs bombes atomiques, ce qui est pour ça que les Américains veulent que ces 400 kilos sortent d'Iran. D'un autre côté, c'est les bombes nucléaires type Hiroshima, et d'après ce qu'on entend, c'est complètement irréalisable comme projet pour l'Iran. Donc ça, c'est pas du tout possible, même si la menace existe, etc. Donc là, tout ça pour dire que la raison invoquée, il me semble, par le ministre de la Défense israélien, c'est de dire oui, c'est une attaque préventive à cause du programme balistique iranien. Donc, en l'espace de 6 mois, ils ont trouvé un autre sujet, quand même. On en revient, c'est qu'en fait, ce n'est pas le nucléaire, ce n'est pas le balistique, c'est affaiblir l'Iran. Donc, effectivement…
Oui, il y a une armée, quoi. Tant qu'il y a une armée, a priori… Ça
oui,
va
voilà, voilà.
Problème,
alors, on arrive… C'est un peu ça que… En gros, l'Iran est trop puissant, quoi. Donc, le problème balistique iranien, il faut rappeler quand même que l'Iran n'a pas d'aviation. On l'a bien vu à la guerre des 12 jours. Donc, c'est parce qu'à cause des sanctions… Donc, du côté israélien, ils ont des F-35. L'Iran, ils ont des vieux avions. Ils ne peuvent pas combattre du côté avec l'aviation. Et leur seule arme de défense qu'ils ont utilisée, qui a quand même leur permis de… Eux, ils pensent que c'est ça qui a permis d'avoir un cessez-le-feu, c'est le programme balistique. Donc, c'est leur seule arme de défense. Et ils ne font pas ça Je veux dire, le régime iranien, il n'est pas suicidaire. Donc, penser qu'il va faire une attaque contre Israël, un missile, parce qu'Israël et les États-Unis vont réagir. Donc, je veux dire, donc c'est un argument qui ne tient pas la route. Donc, effectivement, on est face à des arguments qui ne tiennent pas la route et qui revient dans cette idée que finalement, il faut trouver un argument pour attaquer l'Iran, parce que le problème, en fait, la cause essentielle, c'est que l'Iran était en position de faiblesse.
On a vu que le drapeau rouge a été hissé sur les mosquées les plus importantes du pays, un signe traditionnel d'appel à la vengeance. Est-ce que vous pensez qu'il faut prendre cette menace au sérieux ?
C'est une situation complexe. J'écoutais un débat sur l'Iran. Vous savez, il y avait le fameux mot de Rumsfeld quand il a préparé la guerre d'Irak. Il disait il y a les choses qu'on sait qu'on ne sait pas, mais il y a ce qu'on ne sait pas, ce qu'on ne sait pas. Donc, je pense que c'est tout à fait la situation actuelle. Donc, il y a plein de facteurs auxquels on n'a pas pensé qui existent. Oui, je pense qu'à force de ne pas respecter le droit international, de privilégier la force et quelque part de mépriser un petit peu, mépriser les peuples, etc., et d'être imprudent et de ne pas avoir de plan. On a vu ce qui s'est passé quand même avec la guerre en Irak, qui a quand même permis à l'État islamique de s'installer, de se créer, je crois. C'est Al-Qaïda qui s'installe dans le nord de l'Irak et ensuite qui devient l'État islamique, suite à la désorganisation liée à la guerre civile en Irak. Oui, il y a effectivement, si on arrive à une situation où il y a déjà, ce qui est quand même inquiétant, je veux vous dire, dans la stratégie iranienne, et je l'ai vu dans les débats en Iran, il y avait l'idée que la guerre des 12 jours les a beaucoup... Oui, le mot, c'est un peu traumatisé, parce que c'est la première guerre qui touche l'Iran depuis la guerre Iran-Irak. Et chez les Pasdaran, on entendait, on est devenu trop prévisible. Notre réponse est trop millimétrée. La réponse qu'on a donnée à l'assassinat de Qassem Soleimani, elle était trop millimétrée. On a visé une base militaire américaine en Irak et on a prévenu le gouvernement irakien avant. Donc, en fait, on aurait dû vraiment répondre. Et là, on serait pas rentré dans ce qui nous a amené à la situation actuelle. Donc, c'est inquiétant. Si vous voulez, et puis il y a eu le fameux discours de Khamenei où il dit si vous attaquez, la guerre sera régionale. On voit la situation actuelle. Donc, effectivement, il y a l'idée en Iran que il y a plus de ligne rouge, quoi. Il y a plus de limite. Vous nous attaquez directement sans quand même. C'est une guerre d'agression. Enfin, on parlait tout à l'heure du cherche. C'est pas les guerres préventives, ça n'existe pas dans le droit international. Donc, c'est une guerre d'agression. Vous assassinez la principale référence politique du pays le premier jour de la guerre. Vous arrêtez pas de répéter que vous voulez changer le système politique. Vous faites référence à des opposants basés à l'étranger. Donc, on peut craindre effectivement que s'ils sont dans une logique de, en gros, tous les coups sont permis. Alors, faut rester prudent. C'est quand même ce qu'a utilisé l'Iran, mais c'était après la Révolution, quand ils étaient en situation de faiblesse. Ils ont utilisé le terrorisme comme arme pour tordre le bras aux Occidentaux juste après la Révolution. Mais après, ils ont laissé tomber. Ils sont plutôt rentrés dans une logique, on va dire, étatique, de rapport d'État-État, d'où le danger. À force, si vous voulez, c'est ça qui est quand même très, très, très gênant dans toute cette histoire. C'est... à force de dire, quelque part, nous, on respecte le droit international, ce qui règle les rapports entre les États, c'est quand même le droit international. Donc Trump, il sort, je ne l'ai pas dit, mais peut-être le rappeler, en mai 2018 de cet accord est validé par une résolution des Nations Unies. Donc il piétine déjà le droit international. Donc bon, alors les Européens disent, il y a le marché, quelque part, enfin, un quelque coût-bénéfice. Donc oui, le marché américain est plus important que le marché iranien, c'est vrai, mais enfin, en oubliant, à force de ne pas respecter le droit international, vous donnez le sentiment, notamment aux plus durs. Moi, j'entends un discours chez les plus durs en Iran. Moi, avec les Occidentaux, on a essayé la diplomatie. Ça ne marche pas.
Ouais, ils tuent les négociateurs.
Oui, voilà, ça ne marche pas. Donc, effectivement,
ça marche pas bien.
En gros, il faut leur tordre le bras. Attention, moi, je ne justifie rien, mais ça peut expliquer, par exemple, leur stratégie de prise d'otages. Ils ont arrêté des Occidentaux. Parce que moi, ce que j'entendais, ce que je voyais derrière, c'est que du côté des plus radicaux, parce que le système politique iranien s'est radicalisé. En fait, à cause de ce qu'a fait Trump, je ne dis pas que ça ne justifie pas, mais il s'est radicalisé.
Ouais, c'est un fait, quoi, c'est tout.
Il s'est radicalisé depuis.
Ça adoucit rarement les relations
internationales. Oui, voilà, mai 2018. Et effectivement, du côté des radicaux, il y a l'idée que tous les coups sont permis avec les Occidentaux. Il faut leur tordre le bras parce qu'on voit bien les négociations, ça ne marche pas. Donc, à force de dire. C'est ça qui est un petit peu pénible chez les Européens qui disent toujours aux Iraniens oui, mais regardez, reprenez les négociations. Jusqu'à quand Trump, il est trahi trois fois. Il ne respecte jamais le droit international, il attaque quand il veut. Donc oui, il faudrait peut-être d'abord dire qu'il ne respecte pas le droit international et que si on veut que l'Iran négocie, ben, il faut respecter leurs droits quand même, ce qui n'est pas le cas, et surtout penser au bien-être hein, de la population iranienne, ce qui était complètement oublié également hein, dans les calculs européens en mai 2018. Hein, l'Iran est, mais c'est important, l'Iran est quand même en crise économique depuis 2012, il y avait les sanctions d'Obama avant. Donc 2012-2026, ça veut dire près de 15 ans de crise économique. Il n'y a que 2 années où la situation économique s'est améliorée. Comme par hasard, c'est juste après la signature de l'accord, quand les sanctions étaient levées. Donc voilà, on plonge une population dans la crise. Et puis tout d'un coup, on vient dire « Ah ben, il faut que… c'est important la démocratie en Iran ». Ben oui, mais c'est quand même mieux quand la démocratie arrive dans un pays qui connaît une classe moyenne, qui se développe économiquement. Ça, on le connaît, ça, donc, si vous voulez. Donc oui, c'est… En tout cas, pour répondre… je ne sais pas, je n'ai pas la réponse à votre question, mais je vois derrière ça… l'absence de respect du droit international de la part des Occidentaux. Il serait bien qu'on prenne en compte ça, que si on veut qu'on ait un monde plus ordonné et mieux régulé, il faut qu'on montre que les règles s'appliquent à tout le monde et qu'on est prêt à se battre pour leur application.
Il y a eu un élément aussi très, très, très récurrent dans les médias, dans le traitement médiatique de l'Iran, c'est évidemment la situation des femmes là-bas, où en effet, bon, c'est pas simple, mais j'ai envie de vous demander… Est-ce que l'Iran est le pire pays de la région pour la situation des femmes ?
Alors, ce qu'il faudrait peut-être tellement insister sur l'Iran, c'est ce qui est très frappant quand on travaille sur l'Iran, je ne suis pas le seul à le dire, c'est la modernisation de la société iranienne depuis la Révolution, avec notamment la chute du taux de fécondité, qui est un élément très marquant quand on étudie les évolutions des sociétés. Je crois que c'est 6 à 7 enfants par femme avant la Révolution. Aujourd'hui, c'est 1,7, presque les mêmes taux que chez nous. Et derrière ça, il y a l'élévation du niveau d'éducation des femmes. De mémoire, c'est dans mon livre « Audition Héros », 1976, 1% des femmes de 25 à 49 ans ont un diplôme universitaire. 2016, c'est 29%. Donc, les femmes ont, le niveau d'éducation des femmes s'est élevé, avec beaucoup plus de femmes qui sont médecins, chirurgiens, pilotes d'avion, enfin, je veux dire, qui jouent au foot, etc. Donc, effectivement, avec le voile, parce que c'était, voilà, c'était ça, c'était… L'obligation, c'était lié à la République islamique d'Iran. Et effectivement, on a c'est la contradiction de la société iranienne avec une modernisation, c'est-à-dire les populations sont plus éduquées, modernisation des mentalités, avec effectivement les femmes notamment veulent s'habiller comme elles veulent, etc. Et elles ont payé un lourd tribut pour ça justement. Et moi, je suis allé en Iran en juin, juste avant la guerre là. Et ce qui m'a frappé, c'est que maintenant c'est un frappant. Hein. Alors ça, c'est vraiment nouveau. Vous prenez dans la rue, sur 10 femmes, il y a 5 femmes qui ne portent plus le voile. Donc effectivement, là, ils ont gagné ce droit, mais durement. Effectivement, il y a eu 500 morts liés à la répression en 2022. Mais c'est là où peut-être, on en revient toujours à ce que je disais, c'est qu'on a une population qui se modernise, les femmes qui sont de plus en plus éduquées. On voit une modernisation des mentalités qui est en contradiction avec le système politique iranien. Avec un centre de loi sur notamment l'héritage en Iran, etc. Mais voilà, en gros, on en revient toujours. Donc, pour permettre que ces droits soient respectés, il faut une guerre avec des milliers de morts. Donc voilà, les femmes en Iran mènent un combat. Elles sont de plus en plus éduquées. Est-ce qu'il ne faudrait peut-être pas réfléchir, du côté notamment des diplomaties européennes, sur quelle est la meilleure manière d'aider cette société civile iranienne ? Tout à fait.
On a vu qu'un certain nombre d'États alliés d'Israël ont été touchés dans la riposte iranienne. Je pense par exemple à Dubaï, dont les images ont fait beaucoup parler. Les Émirats ont construit leur prospérité économique sur la sécurité du pays. On devine que si le conflit se maintient, ça va avoir de très graves conséquences pour leur attractivité. Pourquoi s'en est pris à Dubaï ?
Alors, je n'ai pas la réponse à cette question. Mais ce que je vois, je vois plusieurs éléments. Je pense qu'il y a quand même la volonté. L'Iran a dit, de toute façon, c'était clair. Hein. Quand l'ayatollah Khamenei a dit « si vous nous attaquez, la guerre sera régionale », il n'y a pas à être surpris maintenant. Donc, ils veulent que la guerre soit régionale. Alors, effectivement, on peut être surpris sur le fait qu'ils prennent le risque d'attaquer leurs alliés dans la région. Mais je pense qu'il y a l'idée que… Alors, ils travaillent depuis très longtemps, les passes d'armes notamment, sur le concept de guerre asymétrique. C'est-à-dire, les guerres asymétriques, ils font pas le poids militairement par rapport à la première armée du monde et même par rapport à l'armée israélienne. L'idée, c'est qu'on veut vous infliger un coup qui vous fasse réfléchir et regretter d'avoir commencé la guerre. Donc, c'est ça, qu'ils travaillent. Et donc, très clairement, ils attaquent les pays dans la région parce qu'ils veulent qu'il y ait un impact sur le prix du pétrole. Donc, on voit qu'ils ont commencé à attaquer des installations pétrolières et gazières, je crois qu'en Arabie Saoudite ou au Qatar. Donc très clairement, ils ont bloqué le détroit d'Ormuz. Donc très clairement, ça c'est plutôt à la direction des États-Unis. C'est l'idée de dire à Trump, ils ont compris comment Trump fonctionnait. Donc l'idée c'est que on attaque les pays de la région, même s'ils prennent un risque. On en revient tout à l'heure. Je pense que là, c'est pour ça qu'on disait c'est assez dangereux ce qui se passe en Iran, parce qu'il y a l'idée que chez eux, jusqu'à présent ils étaient trop prudents. Maintenant ils prennent des risques parce qu'effectivement, ils attaquent des alliés avec qui ils avaient renoué les relations diplomatiques, comme l'Arabie Saoudite, donc ils prennent des risques. Mais le Qatar, qui était un de leurs alliés, ils l'attaquent. Mais l'idée, c'est effectivement qu'il y a un coût, notamment pour les Occidentaux et pour les États-Unis, avec une hausse du prix de l'énergie, qui fasse réfléchir au fait que ce conflit ne doit pas durer. Et puis, il y a un autre élément qui peut jouer aussi, c'est que c'est beaucoup plus facile pour eux d'attaquer les pays proches avec des drones et des missiles de moyenne portée que d'attaquer Israël, où ils ont besoin de missiles de longue portée.
Mais du coup, est-ce que les monarchies du Golfe ne vont pas se dire que les États-Unis, c'est quand même plus un problème qu'autre chose, parce que c'était censé les protéger. Or, ils sont en train de se prendre la foudre parce qu'ils sont là. En plus, ils se rendent compte que les soldats, ils se battent pas, ils se planquent dans les hôtels. Donc après, les hôtels se font bombarder. Puis après, ils se rendent compte qu'il n'y a plus assez de matériel, missiles, pour les protéger plus de quelques heures quand même, ce qui est un peu limité comme allié. Est-ce que ça peut changer aussi les relations entre ces États et les États-Unis ?
Alors, tout ce que je vois, c'est vraiment, il y a quand même une colère contre l'Iran, parce que donc effectivement, l'Arabie saoudite et les Émirats se sont ralliés alors qu'ils étaient plutôt en désaccord. Il y a une colère contre l'Iran. Je pense que j'écoutais des militaires américains, ils disaient oui, toutes les précautions avaient été prises pour aider les alliés face à ce type d'attaque iranienne. On voit que c'est pas aussi simple. Ils n'arrivent même pas à protéger leur propre base. Donc effectivement, manifestement, ils n'arrivent pas vraiment à protéger même leur propre base dans la région, et ne parlons pas des installations pétrolières et gazières dans la région. De toute façon, je pense qu'il faut faire très attention, on parlait de nombre d'incertitudes. C'est vrai que ce n'est pas nouveau non plus. Vous savez, en 2019, quand il y a cette attaque des missiles contre des installations pétrolières en septembre 2019 saoudiennes, on a dit que ça venait des Houthis, c'était l'Iran, qui, à l'époque, voulait faire pression sur l'Arabie saoudite, qui était à fond derrière la politique de pression maximale de Trump. Donc, et à l'époque, l'Arabie saoudite s'est rendu compte que Trump n'a pas bougé. Donc, je pense qu'effectivement, il y a une prise de conscience depuis ça, du côté dans la région, qu'effectivement, les relations avec les États-Unis ne sont pas comme avant. Bon, est-ce que ça va ? C'est vrai qu'ils veulent le développement économique. Ils ont besoin d'un appui américain, mais c'est vrai que moi je pense que 2019 a été une vraie rupture du côté des Saoudiens, c'est qu'ils ne comptent plus vraiment sur les États-Unis pour assurer leur sécurité.
Sur cette chute de l'empire américain, je vous renvoie sur notre très récente interview d'Emmanuel Todd, qui parle aussi un peu de ce qui se passe avec les États-Unis. On vous met le lien, regardez-la vraiment si vous ne l'avez pas encore vu. Le pétrole est aussi au centre de vos préoccupations, de vos analyses. Le détroit d'Ormuz fermé, ça, c'est nouveau. Qu'est-ce que vous pensez qui risque d'arriver, puisque les États-Unis commencent à dire qu'ils vont peut-être envoyer des bateaux pour le rouvrir? C'est quoi ce détroit? À quoi ça sert? Qu'est-ce qu'il y passe? Est-ce que c'est un danger, vous pensez?
C'est une menace que l'Iran répète depuis des années. Je crois déjà Rouhani, quand il était président, disait on a toujours la possibilité de faire le détroit d'Ormuz, et qu'ils n'ont jamais mis en exécution. Donc on en revient à ce que je disais tout à l'heure. Je pense que c'est aussi inquiétant, la stratégie iranienne, c'est qu'ils considèrent que toutes les lignes rouges ont été franchies, donc tous les coups sont permis, donc ils ont effectivement commencé à fermer le détroit d'Ormuz. Donc le détroit d'Ormuz est un élément important, parce que c'est très très près des côtes iraniennes. C'est pour ça que les Américains peuvent envoyer des bateaux, mais ce que j'entendais chez les spécialistes, les Iraniens peuvent mettre des mines, par exemple. Hein. Donc c'est très facile pour eux de perturber le passage, parce que c'est vraiment
Il y a 30 kilomètres par lesquels passe 20% du pétrole de la planète.
Voilà, donc, et il y a 20% du trafic pétrolier mondial qui passe par ce détroit. Donc effectivement, c'est un point stratégique et de faiblesse pour l'économie mondiale. Et on va voir qu'est-ce qui va se passer, mais je note que le prix du pétrole a déjà progressé.
Et 80% pour le gaz, hein, parce que évidemment ça
oui,
va.
Oui,
ça
oui,
va
voilà, avec. Exactement. Et alors la question qu'on peut se poser, effectivement, du côté iranien, c'est la relation avec la Chine. Parce que c'est là, par ce détroit, que passe une grande partie, enfin, je ne sais pas si c'est l'essentiel, des exportations de l'Iran vers la Chine, qui est le seul acheteur du pétrole iranien. Donc, quelque part, ils se tirent une balle dans le pied. Mais ce que j'ai compris aussi, et du fait qu'ils se préparent à cette guerre, ils ont stocké énormément de barils dans les eaux proches, vous voyez, dans les mers proches de la Chine. Donc, quelque part, ça dépend combien de temps durera le conflit, mais quelque part, ils ont déjà voyez, ce qu'on appelle fait des ventes à l'avance à la Chine. Donc, effectivement, ils avaient pensé à ça. Mais oui, c'est un point de fragilité de l'économie mondiale et on en revient à ces stratégies iraniennes. Tous les coups sont permis et ils utilisent cette carte.
Donc, il a été étonnamment peu mis en avant dans les médias les premiers jours, alors que c'était quand même en effet un gros sujet. Vous parlez de la Chine. Évidemment, le sujet de pétrole est important pour la Chine. C'est 40% du pétrole de la Chine vient du Moyen-Orient et passe un peu par ce détroit-là. L'Iran est aussi un lieu de passage des fameuses routes de la soie. Une des routes passe évidemment par là, donc un enjeu important aussi pour la Chine. Comment vous pensez qu'elle va réagir ?
Alors, les deux grands alliés stratégiques de l'Iran, c'est la Russie et la Chine. Si vous voulez, sur le plan géopolitique, mais c'est des réalités géopolitiques. Voilà. Il y a un mythe qui existe depuis tout le temps en Iran, qui existait même avant la révolution. L'Iran est une puissance moyenne. Dans une région compliquée, une région où il y a beaucoup de tensions et ils ont besoin de l'appui de puissances membres du Conseil de sécurité des Nations Unies pour résister aux différentes tensions. Alors, avant la révolution, le Shah avait d'excellentes relations avec les États-Unis, mais il essayait aussi d'avoir et les États-Unis n'étaient pas du tout contents, d'avoir des relations pas trop mauvaises avec, à l'époque, c'était l'URSS. Donc, il essayait d'avoir un équilibre entre les deux, même si, bon, effectivement, très, très, très clairement, la politique du Shah était vraiment en faveur des États-Unis. Et donc, après la révolution, il y a un renversement d'alliance. Et alors, les deux grands alliés, par la force des choses, hein, c'est la Russie et la Chine, qui notamment, la Chine, elle joue un rôle important parce qu'elle continue, ce qu'auraient dû faire les Européens, elle continue à acheter du pétrole à l'Iran après que Trump soit sorti de l'accord en mai 2018. Alors, il y a une alliance économique notamment avec la Chine. Hein, est-ce que la Chine a mis en place un système comme, à mon avis, aurait dû mettre en place les Européens ? Ils se font payer en yuan et ce qui oblige les Iraniens ils ont un compte en yuan en Chine et ils importent des produits chinois. Donc, comme par hasard, la Chine a la première part de marché sur le marché iranien. Il y a des accords d'investissement, normalement, il y a eu un pacte à long terme signé entre l'Iran et la Chine. La Chine est censée investir des milliards de dollars en Iran. Ils ne l'ont quasiment pas fait. Alors ça, il y a un gros mécontentement en Iran. En gros, l'Iran, ils pensent que la Chine utilise un peu les circonstances pour acheter du pétrole à bon marché. Et avoir une part de marché importante en Iran, mais ils n'investissent pas assez ou pas beaucoup en Iran. Donc, c'est un mécontentement. Par contre, il y a un soutien militaire. On sait notamment que depuis la guerre des 12 jours, il y a eu très clairement des livraisons de la Chine pour permettre de renforcer la production, notamment du point balistique iranien. Du côté de la Russie, il y a des échanges économiques, mais la priorité, c'est le soutien militaire. Et également un soutien stratégique avec l'idée de créer un corridor nord-sud qui permettrait à la Russie d'atteindre l'Inde notamment, qui passerait par l'Iran. Mais ça, c'est un projet important, mais ça avance pas trop. Mais le soutien, c'est surtout militaire avec des limites. C'est-à-dire qu'il y a eu un accord de sécurité conclu entre l'Iran et la Russie. La Russie aide l'Iran sur le plan militaire, mais il n'est absolument pas question qu'il y a un accord, vous voyez, en gros, que s'il y a un des deux pays qui est attaqué, l'autre vienne à son aide. Quand on dit ça, c'est méconnaître les réalités. La Russie soutient, on va dire, diplomatiquement l'Iran, mais il n'est pas question, d'ailleurs, c'est la même chose pour la Chine, il n'est pas question que la Russie et la Chine interviennent militairement pour aider l'Iran.
Alors, vous l'avez dit tout à l'heure, on ne s'est pas arrêté dessus, mais il y a déjà eu quelques petits bombardements de sites pétroliers en Arabie, dans le coin. Est-ce que vous pensez que si la situation se dégrade encore plus, l'Iran pourrait s'en prendre, bombarder, envoyer des drones sur ses champs pétroliers, sur ses raffineries, par exemple en Arabie ?
Ben ça, je crois que c'est un peu commencé. Hein, donc très clairement, je vous disais, ça rentre dans cette stratégie iranienne inquiétante. C'est-à-dire, il pense que un des points faibles de Trump, c'est qu'il ne veut pas que le prix du pétrole augmente. Et très clairement, ils utilisent tous les leviers à leur disposition pour que ce prix du pétrole augmente avec la fermeture du détroit d'Hormuz. Et effectivement, là, moi, j'y pensais, mais je n'osais pas trop le dire parce que c'est là, effectivement, ça veut dire qu'on passe à un niveau supplémentaire, mais d'attaquer les installations pétrolières saoudiennes et gazières, hein, saoudiennes, au Qatar, etc., au Koweït aussi, je crois. Et donc, effectivement, là, d'avoir une augmentation de créer la panique, quoi, l'augmentation du prix du pétrole. Et on le sait que la hausse du prix du pétrole est beaucoup plus rapidement, du fait qu'il y a moins de taxes, répercutée sur le prix à la pompe aux États-Unis qu'en Europe. Donc, très clairement, ce serait il y a un calcul iranien avec les midterms, etc. L'idée, c'est que, effectivement, que quelque part, Trump regrette d'avoir attaqué l'Iran.
Est-ce que vous pensez, parce qu'évidemment ça va être lié à cette question que je vous pose, est-ce que vous pensez que cette guerre va être courte ou est-ce qu'elle pourrait vraiment être longue? Est-ce que vous pensez qu'il y a une possibilité? Alors, bon, vous allez me dire, vous êtes un chercheur sérieux, vous n'êtes pas Madame Irma, hein, j'entends bien, mais est-ce qu'il y a au moins une possibilité dans votre vision de ce qu'est ce pays, comment est organisé ce pouvoir, que ça dure longtemps?
Honnêtement, personne n'a la réponse à votre question. Je ne sais pas. Ce que je peux vous dire, ce que j'entends, ce que j'essaie de comprendre, c'est que l'Iran répond et effectivement, ils ont mis en place une stratégie assez claire, hein, qu'on appelait de passer sur la guerre asymétrique, le fait que la guerre doit être régionale. Et on a même l'impression qu'ils se concentrent plus sur, quelque part, ils continuent à envoyer des missiles sur Israël, mais on a le sentiment, la perception, du côté des analystes militaires, et que finalement, leur objectif, c'est plutôt les États-Unis qu'Israël. On a vu avec cette stratégie de faire en sorte que le prix du pétrole augmente, d'attaquer les bases américaines dans la région. Donc, il est clair qu'avec surtout l'assassinat d'Ali Khamenei, politiquement, ça me paraît quand même très compliqué. Parce que Trump a quand même, d'après ce, je ne sais pas si je l'ai déjà dit, il a pris deux fois contact avec les dirigeants iraniens pour dire, bon, écoutez, arrangeons-nous, quoi. Et alors, il dit que c'est eux qui ont pris contact avec lui, c'est faux. Il leur a téléphoné deux fois. Ils ont dit non.
Sans doute un peu quand vous venez de décapiter un gouvernement. Enfin, c'est un peu comme si les Japonais, le lendemain de Pearl Harbor, téléphonent en disant bon, allez, c'est bon, on arrête la guerre maintenant.
Voilà.
Quand on déclenche des trucs, c'est compliqué.
Oui, voilà. Et donc, ce que je perçois, c'est que Ali Larijani, il n'est pas question de négocier, c'est évident. Donc, à mon avis, ça va dépendre. Je pense que les Iraniens se préparaient à cette guerre. Donc, j'entendais sans arrêt qu'ils avaient mis le paquet, même si. Les Israéliens ont dit qu'ils ont détruit tant de missiles, comment vérifier? Mais ils ont mis le paquet sur la production de missiles. Ils s'attendaient à cette guerre. Ils ont beaucoup de drones, notamment aussi, qui peuvent leur permettre de faire des dégâts dans la région. C'est ce qu'on voit. Ils sont prêts à encaisser des coups. Ils le savent très bien. Donc, ils ont mis en place, ce que disent les spécialistes, mais il faudrait un fonctionnement assez autonome des Pazdaran, notamment, qui fonctionnent en autonomie et qui n'attendent pas qui n'ont pas besoin d'un avis. Vertical pour agir. Donc, quelque part, il se préparait à cette guerre. Ensuite, si vous voulez, c'est pour ça que j'ai du mal à répondre à votre question, parce qu'on sait aussi que, on en discute beaucoup en Iran, bon, là, on en parlait tout à l'heure, la mort de Khamenei est une rupture, parce qu'il contrôlait tellement le système politique iranien, et il avait le dernier mot pour tout, pour les négociations avec l'Occident. La difficulté avec l'Iran, c'est que le système n'est pas opaque. On peut se douter que des gens comme Ali Larijani, même si c'est lui qui organise la défense actuellement, donc c'est vraiment un dur, Massoud Pezeshkian, le président, ont peut-être une vision différente des relations, notamment avec l'Occident, que celle qu'avait Ali Khamenei. Donc, dans certains scénarios, bon, un peu le rêve de Trump, quoi, qu'il arrive à s'entendre avec des gens comme ça. Mais si vous voulez, la difficulté, ce que je vois, c'est que l'Iran a quand même... Il y a eu tellement de violations du droit international. C'est une agression sur le territoire iranien. Ils ont assassiné Ali Khamenei. Je pense même déjà concrètement, c'est même impossible pour Ali Larijani, à court terme, de tout d'un coup, il dit « Ah ben très bien, ok, négocions avec Trump, etc. » Tout en sachant que les négociations avec Trump, c'est quand même spécial. Hein, donc, il respecte pas. Je pense qu'il y a toujours l'idée américaine. À la limite, ils vont imposer encore plus de choses à l'Iran. Donc, du côté iranien, si vous voulez, du côté iranien, le pouvoir est quand même divisé avec... C'est assez complexe. Il y a les camps conservateurs. Et dans les conservateurs, il y a des radicaux, des vraiment durs. Et il y a des durs, j'entends ça chez eux, ils disent « Mais pourquoi négocier avec les États-Unis ? Ça ne sert à rien. Ça fait des années qu'on essaye et à chaque fois, ils nous attaquent. » Donc, pour répondre à votre question, c'est compliqué à court terme. Bon... ça reste possible à moyen terme, mais l'incertitude que j'ai, c'est comment va évoluer le conflit. Est-ce que l'Iran va à un moment être obligé, compte tenu du niveau de destruction du pays, que de dire à un moment, bon, on essaye de négocier. Donc, cette possibilité existe.
Mais aussi, à contrario, on a entendu Israël hier dire qu'il allait tuer le prochain ayatollah qui serait élu. Donc, ça risque aussi de radicaliser. Donc, est-ce que les négociations, voilà, comment on va faire dans ce cadre-là? Enfin, on se dit.
On en revient à ce qu'on disait au début, c'est que manifestement, il y a quand même deux objectifs différents entre les États-Unis et Israël. Trump, avec lui, ce qu'il veut, c'est en gros avoir la solution qui lui coûte le moins cher possible. Du côté israélien, l'idée, c'est de créer le chaos d'affaiblir durablement l'Iran. Et donc, effectivement, il ne serait sûrement pas d'accord s'il y avait des négociations entre Trump et un des dirigeants iraniens.
Eh bien, nous arrivons à la fin de cet entretien. Merci beaucoup. Ça fait plaisir d'entendre une analyse calme sur la complexe situation iranienne. Traditionnellement, je vais vous demander notre question rituelle. Qu'est-ce qui, selon vous, est connu de peu de personnes et qui mériterait d'être connu de tous ?
Alors, connu de peu de personnes, je ne sais pas, mais ce qui m'attriste un petit peu, c'est de voir le nombre de gens qui parlent de l'Iran, qui manifestement ne parlent pas la langue. Bon, notamment on parlait dans les médias, et puis savent tout sur le pays, et puis nous expliquent tous ces scénarios d'un pays complexe, quand même un pays complexe, avec une histoire compliquée, notamment avec l'Occident, et une vieille histoire. Et donc quand les pays ont une vieille histoire, on a vu qu'il y a des dynamiques auxquelles on ne peut pas échapper. Je veux dire, il y a quelque chose, je ne voulais pas parler de ça, mais je pense qu'il me frappe, il y a une obsession sécuritaire en Iran, qui est lié, qu'on voit avec cette obsession d'enrichir l'uranium, même pour être une puissance du seuil. Même s'ils disent qu'ils ne veulent pas la bombe atomique, mais derrière, il y a une obsession sécuritaire. Quand on voit l'histoire de l'Iran, le nombre d'invasions qu'ils ont dû subir depuis, ne parlons pas, ça a commencé avec les Mongols, etc., et puis les nombres d'attaques, etc., avec des attaques qui ont été complètement destructrices pour le pays, cette obsession sécuritaire, en plus la guerre avec l'Irak, Saddam Hussein, donc soutenu par tous les pays occidentaux. Donc, quand j'entends notre président dire « Oui, toute la faute est de l'Iran sur le problème nucléaire », bon, quelque part, on aimerait bien qu'il y ait des gens dans son entourage qui connaissent l'histoire de l'Iran. Oui, bon, ils ont peut-être tort, mais cette obsession sécuritaire, elle ne vient pas de nulle part. Et il ne s'agit pas de dire « c'est bien, c'est mal », c'est contre l'histoire de l'Iran. Et c'est pour ça que si vos, comment dire, vos téléspectateurs, ça les intéresse, cette histoire de l'Iran. Moi, je viens de lire un roman, en persan, parce que c'est dans mon travail, j'essaye de lire le plus de persan possible, qui s'appelle Savoshoun, qui est écrit par une femme, qui s'appelle Simin Doneshvar, et qui est un sujet très intéressant. C'est un roman, il parle de la situation, il passe en Iran pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et c'est très intéressant, parce que l'Iran a été envahi par les armées alliées. D'ailleurs, alors, on ne leur a pas trop demandé leur avis, hein, parce que voilà, les Anglais au sud et les Russes au nord, parce que l'idée à l'époque, c'est que l'Iran était un pays stratégique pour permettre de livrer des armes à l'URSS à l'époque. Donc, on ne leur a pas trop posé la question. Bon, le problème, c'est que ça a quand même désorganisé l'économie du pays. Et en gros, il fallait nourrir les armées occidentales. Bon, il y a quand même une famine en Iran. Alors, attention, c'est compliqué, mais disons, certains disent plusieurs millions de morts en Iran. Donc, on peut, si vous voulez, ceux qui s'étonnent que les Iraniens soient méfiants vis-à-vis des pouvoirs occidentaux, voilà un exemple très clair. L'occupation occidentale a conduit à une famine. Alors, il y a d'autres facteurs, mais disons, c'était catastrophique, une famine en Iran. Et ce roman, il s'appelle Savoshoun, il parle justement de cette situation. Et bon, il y a, avec effectivement, et c'est ce qui est intéressant, le héros de ce roman, c'est une femme. Alors, c'est un roman publié en 69. Donc, le héros de ce roman, c'est une femme. Et son mari est quelqu'un, justement, qui supporte pas cette situation et qui est contre. C'est intéressant. Ça permet de voir l'histoire de l'Iran. Et qui, lui, il est contre ces compromissions qu'il voit chez les notables par rapport aux Anglais, on leur parle de la guerre contre Hitler, mais bon, lui, ça lui parle pas, quoi. Ils sont pas concernés. Et il voit l'occupation de l'Iran et il voit justement le pillage des ressources. Il y a vraiment un passage où, effectivement, les armées anglaises, veulent qu'on leur vende tous les cheptels, quoi, tous les moutons, etc. Et il y a quelqu'un qui fait partie, parce qu'il dirige un domaine, donc il y a un de ces paysans qui garde un mouton pour lui, et puis il le mange, pour se manger, parce que les gens meurent de faim, il le mange, et il trouve que c'est lui. Bon, il l'a fait parce qu'il mourait de faim, et je crois qu'il meurt parce qu'il meurt de regret. Le fait d'avoir fait ça, si vous voulez. Donc, c'est un roman incroyable. Et notamment, très intéressant, parce que c'est... je ne dis pas... Il ne faut pas que je raconte toute l'histoire, mais notamment sur la... C'est très moderne comme roman, parce que c'est la femme qui est l'héroïne, quelque part, du roman. Et il y a une part de, vous voyez, un peu de réflexion de ses pensées, etc., par rapport à toutes les situations qu'elle vit, son couple, etc., la société iranienne, différents types de... les jalousies entre familles. Donc, je crois que ce roman a été traduit plusieurs langues, il faudrait vérifier de traduire en français, donc je recommande la lecture de ce roman qui est très très connu en Iran, qui est très célèbre, qui s'appelle Savoshoun.